Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être fidèle à Tech & Co, bienvenue sur BFM Business. 20h, 22h chaque soir, vos 2 heures de tech, nous sommes de retour de Barcelone et nous voilà ici dans nos studios parisiens. Avec au sommaire dans Tech & Co, ce soir, plein de bonnes choses, on va s'intéresser à ce partenariat entre Valeo et BMW. Imaginez votre voiture qui se gare toute seule, mais vraiment toute seule. C'est une petite prouesse technologique qu'on va découvrir dans quelques minutes. L'intelligence artificielle au service du spectacle, ça s'appelle Inky. Vous allez voir, c'est une boîte passionnante qu'on va découvrir ce soir dans Tech & Co. Et puis, le Wi-Fi qui pourrait être diffusé par la lumière, c'est ce qu'on appelle le Li-Fi. Et ça peut avoir du sens dans certains usages. On en parlera tout à l'heure avec mon invité de porte-parole, Dolette.com. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder tout au long de cette soirée. Merci d'être là. Bienvenue, c'est Tech & Co sur BFM Business.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Journaliste à BFM Business et BFMTV.com. Dans l'actualité, l'étau se resserre sur TikTok. Frédéric, après la Commission européenne, ça commence aussi à grincer des dents, mais ça fait un moment que ça grince des dents, du côté des USA.
Voilà, aux États-Unis, TikTok, on le sait, donc c'était... Alors, TikTok avait failli être carrément interdit, ça c'était sous Donald Trump.
À l'époque de Trump, bien sûr.
Donald Trump. Joe Biden était revenu sur cette décision, mais malgré tout, le gouvernement américain a, ça on s'en souvient, c'était en janvier, a restreint, interdit même l'usage, le téléchargement, l'utilisation de TikTok pour les fonctionnaires de l'État fédéral. Hein, donc tous les agents de l'État central américain ont eu 30 jours pour supprimer TikTok, l'application chinoise, les agences fédérales américaines ont embrayé le pas. Ensuite, c'est la Commission européenne, hein, c'était le 23 février dernier, qui a interdit l'utilisation, l'usage de TikTok à tous ses fonctionnaires. Depuis quelques jours, c'est le Canada. Aujourd'hui, on apprend que c'est le Danemark qui l'interdit aux députés et aux fonctionnaires d'État aussi. Donc voilà, de
ça
plus
fait vraiment
en plus
une traînée de poudre.
Exactement.
Hein.
Alors, on ne sait pas si c'est par mimétisme, s'il y a des informations qui circulent au sein des différents gouvernements occidentaux.
On n'arrive pas à savoir ça. Hein.
Non, voilà, on ne sait pas. Alors, en France, il y a une commission d'enquête qui a été ouverte par le Sénat. Il n'y a pas, pour le moment, d'interdiction de la part pour les fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok. Alors, on se demande ce qui se passe, parce que TikTok est là depuis longtemps. Eh bien, c'est toujours les menaces que fait planer TikTok. Hein. TikTok, on sait, est une entreprise chinoise qui appartient, un service chinois qui appartient à la société ByteDance. Et donc, qui dit chinois et tech, eh bien, dit soumission au gouvernement et au parti communiste chinois. Alors, TikTok essaie de se défendre, assure que ses serveurs sont situés aux États-Unis ou en Europe, mais malgré tout, on sait que TikTok peut avoir accès aux données des utilisateurs, les données de localisation, les centres d'intérêt des différents des Occidentaux qui utilisent TikTok. On rappelle, un milliard d'utilisateurs dans le monde, à des centaines de millions aux États-Unis, en France, en Europe. Et donc, TikTok se défend sur ces points-là, en disant que non, ils ne sont pas soumis au gouvernement chinois, même si le gouvernement chinois, hein, c'est ce que répond TikTok, leur demander de leur fournir des données, ils ne les fourniraient pas. En attendant, il y a quand même pas mal de faits troublants. Hein. TikTok a admis que certains de ses salariés avaient pu accéder à des données privées d'utilisateurs occidentaux et que même certains employés avaient utilisé TikTok pour suivre des journalistes. C'est en décembre que Biden avait reconnu ça, pour suivre des journalistes qui avaient révélé des informations sur Biden, sur l'entreprise mère de TikTok. Donc voilà, alors pour le moment, pas d'interdiction pour les utilisateurs, hein, mais c'est vrai qu'on sait que ça a pu être fait par le passé. Wish, par exemple, là, l'application de e-commerce avait été interdite en France, donc on sait qu'interdire un service, aussi populaire soit-il, c'est pas impossible, même si pour le moment, ça a circonscrit aux fonctionnaires d'État.
Oui, et puis ça fait une mauvaise publicité
aux États-Unis,
pour ce service TikTok qui vit à 100% de la publicité. Est-ce que les annonceurs vont, au bout d'un moment, se dire j'arrête d'investir des millions et des millions sur TikTok? Ça va être très intéressant de voir comment tout ça se poursuit. Dans l'actualité, on va parler de Tesla. Alors, on va beaucoup parler de Tesla cette semaine, puisque jeudi soir prochain, Julien Bonnet sera là pour nous commenter la Tesla Investor Days, qui va être un grand rendez-vous présenté par Elon Musk, qui va justement tracer un petit peu l'avenir de Tesla, hein, mais tu ne vas pas nous parler de ça. On va évoquer avec toi cette construction d'une usine au Mexique.
Alors, on en saura beaucoup plus demain. C'est Tesla qui va le dévoiler les détails. Mais là, c'est le président mexicain en personne, Andrés Manuel Obrador, qui a annoncé, avec une grande fierté évidemment, que Tesla allait ouvrir une usine donc à Monterrey. Monterrey, c'est à 200 km de la frontière américaine. Ouais. C'est un peu le poumon économique du Mexique. Donc, une usine Tesla au Mexique. Le Mexique, c'est un pays très important, de plus en plus important pour la production automobile. Ce sera donc la 7e usine de Tesla. Alors, ce qu'on attend de la confirmation de Tesla, c'est de savoir de quel type d'usine il s'agira. On ne sait pas si c'est une gigafactory qui va produire des batteries ou si ce serait une usine d'assemblage d'automobiles comme Tesla en a. En tout cas, ce sera la 7e usine de Tesla. Tesla, on le sait, est présent en Chine, est présent aux États-Unis et en Europe, à Berlin. Donc voilà, plus de détails sans doute demain. En tout cas, voilà, Tesla repart assez fort en 2023 et Elon Musk aussi. On avait fini l'année avec un Elon Musk qui avait perdu son titre de première fortune du monde.
Qui était devenu très pauvre.
Il était tombé à 130 milliards de dollars. Ouais. Rendez-vous compte. Eh bien, il est remonté depuis. Ah. Il est remonté. Ouf. Ouf de soulagement.
Nous voilà rassurés.
Très soulagé. Frédéric. 50 milliards de dollars gagnés depuis le début de l'année. 187 milliards selon Bloomberg. Ah. Patrimoine d'Elon Musk. Qui est repassé ce lundi, ça s'est passé hier en clôture de la bourse, qui est repassé devant notre Frenchie Bernard Arnault, 185 milliards, 2 petits milliards de plus pour Elon Musk. Mais en tout cas, voilà, ça va mieux pour Elon Musk qui a pris un peu de recul, qui va prendre un peu de recul au sein de Twitter et qui a relancé Tesla avec sa baisse de prix. Les ventes sont très bonnes et avec des annonces d'ouverture d'usines. Donc voilà, ça va un peu mieux. C'est un petit peu Elon Musk est un peu sorti de la tornade de 2022.
Oui, après ce sont des fortunes théoriques, puisque ce sont des...
Il faut vendre, il n'a pas 187 milliards sur son compte en banque.
Non. Mais il doit en avoir quelques-uns quand même.
Il en avoir un petit peu.
Ça va être intéressant de voir aussi l'avenir de Twitter, etc., qui est, on va dire, un peu...
Il a annoncé qu'il lâchait la barre de Twitter en fin d'année.
Oui, fin d'année. En théorie. Dans l'actualité aussi, après Elon Musk, c'est Meta, Frédéric, qui ne veut pas se laisser faire par ChatGPT et qui veut avoir sa réponse dans l'IA et l'intégrer dans WhatsApp et Instagram.
C'est vrai que c'était un petit peu le dernier grand qu'on attendait sur l'IA, sur l'intelligence artificielle générative.
Puisque Google et Microsoft ont
répondu. On a OpenAI, donc avec ChatGPT. Et donc Mark Zuckerberg a annoncé alors de manière assez sobre, c'est simplement un statut sur Facebook. Il dit « Nous publions un nouveau modèle de langage d'IA à la pointe de la technologie ». Appelé LAMA, 2LAMA, conçu pour aider les chercheurs à faire avancer leurs travaux. Alors LAMA, ça veut dire Large Language Model Meta AI, donc intelligence artificielle. Alors, il se distingue clairement des autres. Ce ne sera pas un service clé en main qui sera fourni aux utilisateurs des services de Meta. On ne va pas le voir intégré tout de suite dans WhatsApp, sur Facebook ou sur Instagram. Mais Mark Zuckerberg a dit que ce sera un outil qui va être mis à disposition des chercheurs. Ça laisse entendre que son système, son service n'est pas encore peut-être aussi abouti que les autres. En tout cas, il ne veut pas le mettre tout de suite dans les mains du grand public. Il dit qu'il y a encore des travaux pour faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse gérer les risques de partialité, de commentaires toxiques de la part des utilisateurs. Donc voilà, il y a encore des travaux qui vont être faits. En tout cas, Meta va le mettre à la disposition des chercheurs pour améliorer donc les services d'IA et pour développer de nouveaux services à l'avenir. Ça s'appelle donc LAMA. On rappelle que Meta avait déjà eu des incursions dans l'intelligence artificielle. On se rappelle un service qui s'appelait Make Video. C'était un petit service qui avait été assez précurseur, on rentrait un texte et à partir de ce texte-là, l'intelligence artificielle de Facebook créait une vidéo à partir de ce qu'on avait écrit. Donc voilà, Facebook avance, mais on n'aura pas tout de suite un service ChatGPT sur notre WhatsApp à la mode Facebook, exactement.
Ouais. Il faut savoir que Facebook investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et notamment grâce à Yann LeCun, qui est le patron de l'intelligence artificielle de Meta, qui est un éminent spécialiste de l'IA, qui travaille à Paris avec toute une équipe très brillante sur ce sujet. Dans l'actualité aussi, c'est le Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end à Paris. L'occasion de nous pencher, si vous voulez bien, sur un secteur qui, grâce à la technologie, s'éloigne un peu des champs. Machine à vendanger, tracteur du futur, CNH, qui est le leader mondial, développe des outils connectés pour les agriculteurs afin de les aider à optimiser leur rendement. Je vous propose de regarder ce reportage aux États-Unis qui a été réalisé par Margot Vuillet, Luc Chagnon et Alexandra Paget. Et on revient juste après.
Phoenix, Arizona, bienvenue dans le Matrix agricole, au milieu des champs, des tracteurs du futur équipés de caméras à 360 degrés, de radars, GPS, détecteurs, le tout relié à une simple application développée par CNH, accessible sur un simple smartphone ou une tablette, ce qui permet à Jason Breuer d'avoir une vue globale sur l'ensemble de son exploitation.
On collecte les informations agronomiques, les meilleurs rendements, le moment où l'on doit appliquer un protocole particulier. Les données sont connectées à une plateforme qui les analyse et s'assure qu'on fait le meilleur investissement.
Cette année, CNH présente sa dernière machine à vendanger fabriquée en France. New Holland Broad détecte son environnement 33 fois par seconde via 3 caméras et peut s'adapter aux différentes largeurs de rangs de vignes. Thierry Lebriquer, responsable du marché mondial du secteur fruits et légumes de CNH.
Alors, cette machine est équipée d'un système de caméra 3D qui permet de reconsolider en fait en vue de dessus le rang de vigne ou d'olivier et permet de guider la machine toute seule sans aucun signal GPS.
CNH a racheté ses principaux concurrents New Holland et Raven il y a 2 ans. La société a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'euros en 2021.
Voilà pour ces outils et ces tracteurs du futur pour terminer l'actu de ce mardi soir. Tech & Co, chaque soir, vous le savez, toute l'actu tech, 20h, 22h à la radio, à la télé sur BFM Business. Et puis après, les replays, les podcasts qui vous attendent. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business avec deux belles histoires qu'on va vous raconter d'ici 20h30. Il y en aura plein d'autres après, bien évidemment. On va évoquer dans quelques instants l'infiniment petit en termes de batterie avec Iten et Fabien Gaben qui me rejoint sur ce plateau. Mais auparavant, Marc Vréco est avec nous. Bonsoir Marc.
Bonsoir François.
Vous êtes président du pôle système de confort et d'aide à la conduite chez Valeo, notre spécialiste français. On est très fiers de Valeo en France. Voilà cet équipementier qui travaille avec les plus grands constructeurs auto. Je crois que toutes les voitures qui sortent de n'importe où, de n'importe quel point dans le globe, ont un peu de Valeo à l'intérieur, non?
Absolument, on est d'accord. Absolument. Et un peu beaucoup de Valeo.
Un peu beaucoup.
Beaucoup de pièces. Voilà. Et en particulier dans l'aide à la conduite, où on a maintenant une voiture sur trois dans le monde est équipée peu ou prou de solutions Valeo. Oui.
Alors évidemment, vous travaillez avec tous les constructeurs, vous avez des relations privilégiées avec quelques-uns d'entre eux. C'est le cas de BMW, et vous allez nous raconter justement cette collaboration que vous avez avec BMW concernant, eh bien peut-être, sans doute, une fonctionnalité qui va, dans quelques années, se démocratiser, pourquoi pas aussi se généraliser. Imaginez une voiture qui se gare toute seule. Alors, les voitures qui se garent toutes seules, ça existe depuis un moment. Hein. C'est une option voilà, qui est bien pratique pour tous ceux qui ont peur de certains créneaux, qui s'amélioraient hein, de génération en génération. Là, on n'est pas tout à fait sur la même chose, parce que c'est un parking autonome.
Oui, c'est un parking autonome. C'est-à-dire que vraiment, vous lâchez votre voiture et vous allez vous garer dans ce qu'on appelle une drop-off zone. Et à partir de là, vous sortez. Vous allez à un supermarché, enfin au cinéma, où vous voulez. La voiture va se garer toute seule, elle va s'installer, elle va tranquillement vous attendre. Et quand vous voudrez la récupérer, sur votre smartphone, vous allez pianoter en disant, reviens me chercher. Et vous la récupérez à la drop-off zone où l'avez laissée ou ailleurs.
Donc, malgré tout, il y a une drop-off zone, c'est-à-dire que, admettons que je suis, je sais pas moi, j'ai un rendez-vous au restaurant, je peux pas laisser ma voiture, sortir de ma voiture, lui dire d'aller se garer. Et de revenir après quand j'ai terminé mon repas.
Ce que j'appelle une drop-off zone, c'est un endroit qui est désigné pour être là. Donc ça peut être simplement c'est identifié. Donc ça peut être devant le restaurant, ça peut être sur une aire sur une aire d'arrivée quand on vous arrivez par exemple au terminal Charles de Gaulle, vous avez les aires d'arrivée de drop.
Des pauses minutes.
Voilà, exactement. Donc ça peut être ce genre de choses. Donc c'est assez variable. Ça peut être également.
Mais est-ce que ce sont des zones officielles? Ou est-ce que finalement la drop-off zone, ça peut être n'importe où?
Non, c'est officialisé, c'est-à-dire que vous l'organisez, vous le régulez, c'est-à-dire que vous identifiez dans le système que c'est une zone où vous allez vous déposer, mais ça peut également être des solutions à domicile, c'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, je vais arriver chez moi et ma voiture va aller se garer dans le garage qui est au fond du jardin. Donc c'est des choses que vous pouvez programmer. Donc on a des solutions qu'on développe maintenant avec BMW, avec lequel on est associé dans ce métier depuis plus de 30 ans. ans et avec lequel on va développer des solutions de valet de parking. Vous connaissez le système de voituriers, oui. De valet de parking qui vont permettre également d'enlever ce qu'on appelle en anglicisme un pain point qui peut être de plus en plus le parking dans des parkings qui sont de plus en plus contraints, de plus en plus serrés où c'est de plus en plus difficile où avec une population vieillissante ça devient un peu malaisé. Donc on essaye de rendre cette
plus fluide
cette opération plus fluide parce que toute opération de mobilité commence et se termine par du parking. Donc voilà.
Comment ça marche tout ça? Comment arrive-t-on aujourd'hui à avoir une vraie autonomie du véhicule? Là, il n'y a plus personne dedans à partir du moment où je la laisse et jusqu'au moment où je la récupère.
D'abord, on a embarqué beaucoup de capteurs, donc des capteurs qui sont les yeux et les oreilles de la voiture, qui permettent vraiment de lire les choses. Donc, on avait commencé un peu plus de 30 ans avec les capteurs ultrasons, ce qu'on appelle les bip-bip de parking, enfin, qui sont des systèmes ultrasons. On a commencé il y a 33 ans, justement, avec BMW, et aujourd'hui, on en fait presque 200 millions, et on est de très loin le leader mondial. On a une part de marché d'environ 50%.
Oui. Et donc, quasi toutes les voitures, enfin, pas toutes les voitures, mais on va dire
que... toutes les voitures maintenant. Alors, on a aussi des caméras, on a un certain nombre de systèmes et on a des gros ordinateurs de bord qui permettent de piloter et de gérer toutes les interactions avec l'environnement, que ce soit les autres voitures, que ce soit les piétons, les cyclistes et autres, de manière à éviter tous les problèmes. Donc vous avez en grande partie tout embarqué dans la voiture et vous pouvez dans certaines conditions vous servir de relais dans les infrastructures de façon à ajouter des services.
Mais Marc, pour que je comprenne bien, admettons qu'encore une fois, voilà, je sors de ma voiture dans cette zone de dépose, minute en quelque sorte.
Oui.
Est-ce que je dois lui dire où elle doit se garer ou est-ce qu'elle se débrouille parce qu'elle va
se débrouiller.
Elle va se débrouiller pour savoir, elle va être connectée avec le parking qui est souterrain, qui est à 400 mètres. Elle sait qu'il y a une place de parking qui lui est réservée. Elle va aller se garer ou
non? Oui, elle va avoir un path planner qui va lui permettre de se mouvoir dans le parking. Elle aura un logiciel qui lui permet d'appréhender la meilleure place possible par rapport à là où elle va aller. À terme, on envisage avec BMW d'aller vers des solutions où elle ira directement à une borne de recharge, elle pourra aller se faire charger, enfin, faire un certain nombre de choses. Donc véritablement, l'idée, c'est d'assurer une fluidité maximum. C'est pas forcément une place réservée, c'est une place disponible dans le parking utilisé.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que là, tout ce que vous nous racontez, c'est formidable. Ça arrive quand?
Alors ça arrive, nous, le programme qu'on a lancé, et là avec BMW, on est sorti d'une relation de client à fournisseur traditionnel pour vraiment nous associer en tant que partenaire. Oui. Nous avons une feuille de route pour avoir les premières solutions arrivant sur le marché en 2026. Et à partir de là, elles vont de façon incrémentale s'enrichir, mais les premières arrivent en 2026 et ensuite. Mais il faut savoir également qu'aujourd'hui déjà, on a des solutions de parking automatique assez avancées. On a des solutions qui permettent de vous garer chez vous de façon assez fluide en sortant de votre voiture, en ayant entraîné la voiture une ou deux fois. Donc c'est des solutions qui arrive.
On a des petits parkings, c'est ce que vous expliquez.
Voilà, exactement, qu'on a des petits parkings. La problématique de l'autonomie, les voitures autonomes et autres, c'est une problématique incrémentale. Donc on va étape par étape,
petit à petit, lui donner un peu plus de liberté.
Voilà.
Après, il y a des problèmes de réglementation. Aujourd'hui, vous sortez cette BMW avec Valeo, est-ce que vous avez le droit?
Oui.
Est-ce que j'ai le droit, moi, de la laisser comme ça en drop zone?
Oui.
Pour qu'elle aille se garer toute seule.
Oui, c'est possible. Alors, le cadre réglementaire a beaucoup évolué. En voiture autonome de manière générale, parce que vous savez qu'on a, lancé, par exemple, avec Mercedes, le niveau 3 qu'on a armé avec notre LIDAR. Donc, on a maintenant la possibilité d'aller jusqu'à 60 km/h. Maintenant, c'est arrivé jusqu'à 130 km/h. Donc le cadre réglementaire
évolue.
Il nous permet d'avancer. Évolue et nous permet de le faire. Donc les verrous réglementaires sont levés, la technologie est là et les business models sont en train d'arriver également.
2026, Voilà, vous reviendrez d'ici là.
Mais j'espère.
Il nous tarde de découvrir cette technologie et de l'essayer. Merci beaucoup Marc Vréco, président du pôle système de confort et d'aide à la conduite chez Valeo. Restez avec nous parce que l'invité que je reçois va sans doute vous intéresser. Volontiers. Parce que l'énergie est un sujet aussi qui est, j'imagine, capital chez Valeo. Fabien Gaben, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président et fondateur d'Iten. On s'était vu en octobre dernier pour une belle levée de fonds, je m'en souviens. C'était 140 millions d'euros. Vous revenez pour deux actualités parce que vous faites votre entrée dans le FT 120, ce qui est déjà une marque, une marque de reconnaissance plutôt appréciable, j'imagine. Et puis, votre deuxième actualité, c'est l'ouverture de cette seconde usine pour ces micro-batteries, parce que le mot est jeté. Vous faites des micro-batteries. Est-ce que vous pouvez nous présenter Iten et ce que vous faites, s'il vous plaît?
Alors, Iten, c'est une jeune société technologique innovante qui a développé, industrialisé et qui met sur le marché donc une nouvelle génération de composants électroniques qu'on appelle des micro-batteries. Hein. Je vous en ai apporté quelques-unes.
Oui.
Je sais pas si avec la caméra on pourra les voir.
C'est tout petit. Hein. Et là-dedans, il y a de l'énergie.
Alors, c'est une batterie, c'est-à-dire qu'on peut mettre de l'énergie, elle va être stockée et pour être restituée.
Restituée, d'accord.
Donc voilà, en fait, la gestion de l'énergie dans les circuits électroniques, c'est un enjeu majeur, hein, surtout pour les circuits électroniques toujours plus miniaturisés. La plupart du stockage des technologies utilisées pour faire du micro-stockage d'énergie dans les circuits électroniques, ça reste aujourd'hui des piles boutons qui sont la plupart du temps pas rechargeables, qui sont polluantes, encombrantes. Les processeurs ont été, en termes de taille, divisés par 1000 en l'espace de 50 ans, mais on continue à utiliser ces piles boutons. Et donc, l'intérêt de nos micro-batteries, c'est de pouvoir assurer cette fonction de micro-stockage dans les circuits électroniques sur un composant qui est complètement compatible des procédés de fabrication industrielle, ultra miniature et puissant, et ça permet de répondre à des tas d'exigences de miniaturisation, d'éco-conception, de fonctionnalités.
Donnez-nous quelques exemples d'usage que l'électronique peut avoir avec ce type de micro-batterie, s'il vous plaît.
Alors, à chaque fois que vous avez un circuit électronique, vous avez une problématique de micro-stockage d'énergie. À chaque fois que vous avez un processeur, des horloges temps réel, vous avez besoin de faire une fonction de sauvegarde, de backup de ces horloges en cas de coupure d'électricité. Donc, la micro-batterie peut servir à ça. Elle peut aussi servir à sécuriser des données sur des mémoires en cas de perte transitoire de courant.
Sur des smartphones, il y a des micro-batteries.
Alors, sur les smartphones, les micro-batteries, on les trouve plutôt sur les périphériques des smartphones, comme des stylets, des oreillettes.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend des téléphones avec le NFC. S'il n'y a plus de batterie, le NFC fonctionne malgré tout. Mm-hmm. Parce que je crois qu'il y a encore des réserves d'énergie qui sont toutes infimes, qui sont encore dans le smartphone. Et je ne sais pas si c'est la batterie qui garde encore un petit peu de stockage ou est-ce qu'il y a une micro-batterie justement qui permet d'alimenter le NFC.
Extrêmement bien renseigné. Donc en effet, sur ces dispositifs nomades comme les téléphones, des fonctions de backup ont pu exister par le passé. Mais c'est vrai que maintenant, on a plutôt tendance à utiliser la réserve d'énergie de la batterie principale. Quand elle est vide, il en reste toujours
suffisamment assez, d'accord,
pour faire ces fonctions. Néanmoins, ça peut poser quand même quelques problèmes parce que le jour où on vous vole votre smartphone, on enlève la batterie, ça réinitialise tout et puis après, vous pouvez avoir des problèmes de sécurité. L'intérêt de pouvoir remettre des petits composants discrets enchâssés dans les circuits permet aussi d'assurer des fonctions de sécurité ou de protection de ces dispositifs.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous fabriquez ces micro-batteries, vous les livrez, vous avez des clients? Vous en êtes où, en fait?
Alors, nous, aujourd'hui, on a notre ligne pilote de Dardilly, sur laquelle, comme on l'avait évoqué lors de la dernière réunion, notre dernière entrevue suite
en
à...
En octobre dernier, oui.
Voilà. Donc, on a démarré les travaux d'augmentation de capacité. Donc, on est sur une année un peu transitoire, où on gère à la fois les travaux d'agrandissement, les livraisons clients, les échantillonnages, de manière à sécuriser le chiffre d'affaires des prochaines années, avec cette fois-ci des capacités plus importantes. Et en parallèle, on a lancé le projet d'installation de notre nouvelle usine dont on avait parlé aussi à l'époque. Donc voilà, on a sélectionné le foncier, le projet est parti et cette usine en fait sera implantée à Chalon-sur-Saône.
Chalon-sur-Saône,
on l'avait vu, pour un démarrage début 2026.
Voilà, avec une production, vous visez une production annuelle de 100 millions de micro-batteries, c'est ça?
Oui.
À terme?
Voilà, c'est sur le site de Chalon, donc on a une approche modulaire, on a un premier module de fabrication qui sera installé pour une capacité de 100 millions de pièces par an.
Très bien. Est-ce que le grand public est visé aussi par ce type de technologie ou c'est plutôt l'industrie, les industriels qui vont s'accaparer tout ça?
On est plutôt, nous, dans le B2B. Hein,
le B2B.
On est plutôt dans les relations avec les industriels.
Mmh. Vous avez un responsable de Valeo. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, non, ce type de micro-énergie comme ça. Ouais. Alors vous, effectivement, il y a beaucoup d'énergie dans une voiture. Ouais. Elles sont électriques, etc. Mais pour des clés, des choses comme ça, où, enfin, aujourd'hui, on a besoin d'énergie. On voit que dans les clés, aujourd'hui, il y a de l'énergie, en fait. Vous pourriez, justement, vous substituer aux piles-boutons qu'on retrouve dans les clés.
On travaille aujourd'hui avec nos micro-batteries sur l'alimentation de nouveaux protocoles de clés, comme l'ultra wideband qui permet d'avoir des clés beaucoup plus sécurisées et qui du coup nécessite un peu plus de puissance et qui du coup a du mal à fonctionner avec des piles boutons. Et puis pour l'automobile, parce que j'entendais en fait ce que vous expliquiez avec les véhicules autonomes, à partir du moment où on fait des véhicules autonomes, j'imagine qu'on va avoir besoin de mettre de plus en plus de capteurs tout autour du véhicule, et avec des micro-batteries on pourra chasser des petits capteurs dans des éléments de carrosserie très très simplement, sans avoir à mettre du câblage compliqué. Voilà, donc, mais là on est vraiment dans la prospective, hein, aujourd'hui.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Fabien. Encore bravo. Dernière question. Le fait d'arriver dans ce FT100V, c'est pour vous aussi une reconnaissance appréciable, j'imagine?
Oui, tout à fait. Donc, on est ravis de rejoindre le FT120. Et puis, voilà, on attend avec impatience de voir tout ce que ce FT120 va nous apporter en termes de mise en relation, de réseau, de développement à l'international. Donc, voilà,
et de mise en lumière aussi.
Mais bon, donc, c'est une étape importante pour nous.
Mais nous sommes là pour ça. Merci beaucoup Fabien Gaben et merci aussi à Marc Vréco, donc de Valeo, et puis Fabien, donc président et fondateur d'Iten. Il est bientôt 20h30 sur BFM Business. Tech & Co revient juste après l'info éco de Thomas Schnell. Vous restez avec nous bien sûr, à tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Vous savez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'IA. Alors bien sûr ChatGPT, puis tout ce qui touche en fait au graphisme avec les IA qui génèrent en fait des images. Vous avez sans doute peut-être essayé déjà DALL-E, Stable Diffusion ou même Midjourney. Est-ce que l'IA va pouvoir aussi révolutionner la création audiovisuelle? Eh bien Frédéric Rose, notre invité, y croit dur comme fer. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Vous êtes président et fondateur donc d'Imki, une start-up qui a été fondée en 2020 à Strasbourg. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts, donc voilà, vous êtes quelqu'un qui connaissait tout cela et vous avez donc décidé d'investir dans l'intelligence artificielle pour cette création audiovisuelle. Racontez-nous comment l'IA justement peut révolutionner la création audiovisuelle et comment vous vous en servez aujourd'hui.
Alors, moi j'ai fait les Beaux-Arts et ça fait 20 ans que je travaille dans la culture. J'ai d'autres sociétés qui sont spécialisées dans le domaine culturel. Mm-hmm. Donc on fait des expos avec du numérique. Et il y a 3 ans, commençaient à émerger les IA génératives sur de la super résolution. Et on a tout de suite pris le pas. C'est-à-dire qu'on s'est dit... Enfin, moi j'ai tout de suite compris qu'elles dessinaient en fait. C'est-à-dire qu'elles avaient appris à pas extrapoler entre des pixels, mais vraiment à créer du contenu entre les pixels manquants. On a tout de suite travaillé en collaboration avec l'Institut National Audiovisuel, parce que l'idée, c'était que si on entraînait l'IA sur de la très bonne qualité d'image, elle était capable de reconstruire des archives abîmées.
Je vous stoppe pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de nous raconter. C'est-à-dire que je prends une image qui existe vraiment, je la fais mouliner par l'IA, et cette image va s'élargir, s'agrandir, en quelque sorte... simplement par du calcul.
Oui, alors
avec un réalisme saisissant.
Un exemple tout simple. On a travaillé sur le discours de Badinter de 1981 sur l'abolition de la peine de mort. C'est un des médias les plus détériorés parce que c'est de la vidéo des années 80. C'est vraiment pas terrible, quoi. Mais on a entraîné l'IA sur des interviews de Badinter de la même année, mais sur des plateaux télé avec de la meilleure qualité. Et ensuite, on lui a demandé de refaire le discours. Et ben en fait, en gros, elle l'a fait de manière ultra qualitative parce qu'elle avait vu Badinter sur d'autres plateaux avec d'autres qualités d'image.
Donc là, elle avait recréé le décor de l'intervention de Badinter, c'est ça ?
Mm-hmm.
Avec une meilleure qualité ?
Absolument.
Et on n'y voyait que du feu.
Absolument. Et on a fait une campagne de photos dans l'Assemblée nationale et on a aussi demandé à l'IA de corriger tous les décors. Incroyable. De l'Assemblée nationale.
Bon. Mais alors, justement, il y a un exemple que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est ce projet à Orange, donc au Théâtre Antique d'Orange, avec du 1er mai au 23 décembre prochain, donc l'Odyssée sonore, où justement, cette expérience, parce que c'est d'après ce que j'ai compris, un spectacle sonore avant tout, hein, qui est accompagné d'un vidéomapping monumental, qui est généré par l'IA.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Racontez-nous.
Alors, effectivement, c'est d'abord une déambulation. Donc, le Théâtre Antique, c'est un monument antique. Il y en a cinq hein, dans le monde de cette qualité-là. C'est un gigantesque volume qui peut accueillir 7000 personnes. L'idée, c'était de le rendre accessible à tout le monde et de pouvoir se balader dedans avec un casque audiophile géolocalisé spatialisé. L'autre enjeu, c'était, comme la zone de chalandise est assez faible à Orange, il fallait réduire les coûts de production et quand même offrir un projet de qualité à la ville. C'est là où l'IA intervient. En fait, elle a deux effets de levier sur ce projet. Le premier, c'est qu'elle crée des images de très très haute qualité en nombre infini. Une fois qu'elle a fait ça...
rapidement, en plus.
Très très vite.
Si on a beaucoup de puissance de calcul, elle va le faire très vite.
Oui, déjà avec peu de puissance de calcul, elle le fait en quelques minutes. Alors avec beaucoup de puissance, elle va très très vite. En gros, elle nous a aidé à créer une grosse base de données d'éléments graphiques qu'on voit à l'écran, des visages, des paysages, etc. Ouais. Et ensuite, ça a été intégré dans ce vidéo mapping qui est monumental. Hein. On parle de 5000 mètres carrés de projection de film. Et le deuxième, c'est que comme elle baisse le coût de production du film, elle permet le renouvellement. C'est-à-dire, alors, pour faire simple, le spectacle, il a une valeur d'1 million d'euros si jamais on l'avait fait normalement et on aurait mis 12 mois à le faire avec probablement une équipe de 30 personnes.
Oui, des graphistes qui auraient été obligés en fait de créer toute la scénographie, enfin toute l'illustration visuelle, alors que là, c'est l'IA qui l'a fait.
Exactement, et donc là, on se retrouve avec 4 mois de production et 5 graphistes qui pilotent les IA. Donc c'est
avec des budgets qui sont divisés par combien là?
Par 2,5 voire 3. Et en fait, l'avantage, c'est que ce budget-là sert au renouvellement dans les années futures et donc à créer une dynamique culturelle au sein du Théâtre Antique.
Incroyable. Et quand vous voyez DALL-E en Midjourney, etc., où on écrit avec une phrase qu'on a envie de voir et vous avez l'IA qui le crée. C'est incroyable ça. Vous vous servez déjà de ce type d'outils?
Alors oui, on s'en sert et surtout on s'en sert des algorithmes de diffusion dont est issu ce label diffusion. Mais en fait, en tant que puriste, en tant qu'homme de l'art, ça manque de justesse. C'est-à-dire qu'on c'est très créatif, elle s'est très très bien dessinée. Mais si on commence à la manipuler un peu dans les détails, c'est-à-dire que si on lui demande une veste de costume et qu'on lui demande un revers cranté avec une poche à rabat, elle ne saura pas le faire.
Elle ne saura pas le faire.
Et ça, c'est notre enjeu à nous. C'est-à-dire qu'en gros, on veut tordre ces IA, les ultra spécialiser sur des dessins très très spécifiques. La mode, le design objet, avec cette expertise, notamment française, puisqu'on a une très très grande expertise là-dessus, pour acculturer l'IA, la transformer, lui dire bah maintenant tu vas être ultra spécialisé sur du dessin de costumes, sur de l'objet, etc. Donc oui, c'est exceptionnel, mais on est qu'au début.
Ça progresse. Alors justement, on n'est qu'au début, on est à l'aube d'une révolution, on est d'accord?
Absolument.
Ça veut dire que demain, on peut imaginer que n'importe quel décor, n'importe quelle scénographie pourra être créée par l'IA en quelques minutes?
Oui, après, il va lui manquer deux choses. La volonté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décider de la création, de l'acte de création.
Il faut partir il faut avoir un point de départ.
Un brief,
créatif.
Part, voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Et ensuite, il y a le choix.
Mais ça, est-ce que ce brief, ça pourrait pas être ChatGPT qui pourrait le donner?
Alors, pour pas vous... j'en fais un petit peu. Alors, en fait, ce que je lui demande, c'est de me créer je lui donne un petit brief créatif et je lui demande de l'augmenter.
Ouais.
Effectivement, ChatGPT l'augmente et ensuite vient alimenter Stable Diffusion. Donc, parce qu'on a deux types d'algorithmes. D'un côté, c'est les transformers pour ChatGPT, et de l'autre côté, c'est les algorithmes de diffusion pour les générateurs d'images, quoi. Mais effectivement, l'un peut alimenter l'autre.
Très bien. On en parlera aussi cette semaine dans Tech & Co. On évoquera évidemment l'IA, mais cette fois-ci au service de la création audiovisuelle. Donc, je vous invite à rester avec nous tout au long de cette semaine. Merci beaucoup, Frédéric Rose, donc président et fondateur d'Imki. Tout ça est passionnant, bien évidemment. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans une minute avec cette licorne franco-allemande Choco qui lève encore 25 millions d'euros. On est vraiment dans la restauration. Vous allez voir, c'est passionnant ce qu'ils font aussi. Vous restez avec nous. On revient dans deux minutes. À tout de suite.
Tech & Co, Le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, une appli qui est en train de révolutionner eh bien, la restauration et qui révolutionne la restauration. Il s'agit de Choco et Hugo Porcher est avec nous. Salut Hugo.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous, cofondateur de Choco France et General Manager de Choco France. Cette licorne franco-allemande qui lève 25 millions d'euros avec voilà, énormément de signes positifs. Hein. Vous êtes valorisé plus d'un milliard de dollars. Vous êtes une licorne depuis avril dernier, avril 2022. 13e licorne européenne d'ailleurs. Donc cette levée de fonds 25 millions d'euros. On va en parler dans un instant. Hugo, expliquez-nous ce qu'est Choco.
Choco, c'est très simple. On simplifie le passage de commande entre les restaurateurs et leurs fournisseurs. Donc on va digitaliser la prise de commande. C'est une commande qui est aujourd'hui encore à 80% effectuée par téléphone. Donc nous, on va aider le restaurateur à centraliser.
C'est-à-dire que le restaurateur aujourd'hui, excusez-moi, je vous coupe, pour la plupart, sont encore avec leur téléphone pour commander les pâtes, leur fournisseur à Rungis ou ailleurs d'ailleurs. Ça se passe par téléphone ?
C'est ça. Il est entre
mail ?
Non, il peut envoyer par mail, mais la plupart du temps, vous avez le chef qui est dans sa cuisine à 23h après le service. Il a entre 5 et 10 fournisseurs. Et il laisse un message sur le répondeur. S'il a de la chance, il a quelqu'un au bout du fil. Nous, on vient l'aider à tout centraliser sur une plateforme. Et du côté du fournisseur, qui sont aujourd'hui nos clients, on va l'aider à digitaliser ce flux de commandes pour éviter d'avoir autant de saisies manuelles tous les soirs. Et aussi d'avoir développé une plateforme marketing qui va être efficace et qui va leur permettre de vendre plus et mieux.
Alors, c'est fou cette histoire de téléphone, franchement, c'est incroyable. Donc, vous enlevez le téléphone, donc le restaurateur qui adopte votre solution se retrouve avec quoi, en fait? Il fait ça avec son smartphone, avec son PC, il a un device particulier pour faire sa commande à 23h.
Ouais. C'est une application qui ressemble à une application de messagerie, sur lequel il va avoir une discussion par fournisseur,
d'accord,
qui va lui permettre de passer toutes
ses commandes. Il va lui dire, voilà, il me manque 10 kilos de pâtes, etc.
C'est ça. Donc, tous les produits frais, mais aussi l'hygiène, la boisson, enfin, tout ce dont il a besoin pour son service, il va pouvoir le commander sur son application.
D'accord. Donc, ça, c'est déjà une première évolution. Ces 25 millions d'euros que vous levez vont servir à quoi ?
Ouais. C'est une belle marque de confiance. C'était pas forcément une levée dont on avait besoin, parce que, comme vous l'avez évoqué, on a effectué une levée au mois d'avril, et c'est nos investisseurs historiques qui nous ont proposé de compléter, en fait, cette levée à la même valorisation, ce qui est dans le
Contexte et dans l'actualité
assez intéressant.
Ouais.
Et donc ça va nous permettre d'investir beaucoup plus sur nos technologies et de répondre aux besoins de nos clients qui sont les fournisseurs des restaurants, et donc aussi de monter en gamme, et donc de répondre à des demandes de fournisseurs de plus en plus gros qui ont des besoins de digitalisation. Là, on sent qu'il y a un gros changement de paradigme depuis 2 ans, une grosse accélération sur le digital. Globalement, tout le monde s'y met. Donc, on veut répondre à cette demande. Et pour ça, il faut qu'on investisse sur l'application pour avoir la meilleure application du marché et répondre à cette demande.
Aujourd'hui, vous avez 15 000 restaurateurs dans le monde, c'est ça ? Et plus de 10 000 fournisseurs référencés ?
C'est ça. On est présent dans 7 pays.
Dans 7 pays.
La France, c'est notre plus gros marché.
Allemagne,
marché
Royaume-Uni aussi, France, Espagne, Autriche, Belgique.
C'est ça, exactement.
Donc, en fait, vous êtes l'outil de transformation numérique des restaurateurs et des fournisseurs, en quelque sorte.
C'est ça. Aujourd'hui, nous, nos clients, c'est les fournisseurs. L'application est gratuite pour les restaurants. Elle est gratuite dans sa version de base pour les fournisseurs. Et nous, on va vendre une version premium aux fournisseurs qui souhaitent se digitaliser, parce que globalement, tout le monde se rend compte que d'ici 5 ans, le fonctionnement qu'on évoquait tout à l'heure de recevoir des fax et des messages sur le répondeur à 23h, c'est pas forcément viable, surtout dans un contexte inflationniste où il y a une grosse pression de
et en termes de productivité, c'est désastreux, en fait.
C'est une question de productivité, c'est aussi une question commerciale. Le digital dans toutes les industries, c'est un impact sur le business. Ça permet de vendre plus, ça permet de vendre mieux, de segmenter ses clients, d'avoir de la data sur ce qui marche bien, sur ce qui marche pas bien. Et donc tout ça, c'est des outils qu'on va proposer à nos fournisseurs premium et sur lesquels ils sont demandeurs.
On parlait d'IA tout à l'heure. Je sais que vous écoutiez en régie notre précédente invitée qui nous parlait de l'IA générative. C'était passionnant. L'IA aussi, elle a son mot à dire dans ce secteur. Je recevais une start-up il n'y a pas si longtemps que ça qui arrivait à prédire, en fait, les stocks de nourriture, en tout cas de matières premières que le restaurateur doit avoir suivant plein de paramètres, la météo, la fréquentation du quartier, etc., etc. Vous pourriez aussi ajouter tout ce type de fonctionnalité, non, dans Choco?
En fait, tout ce qui va permettre aux restaurateurs d'acheter mieux, de mieux gérer ses stocks, d'éviter de gaspiller, et donc d'être plus efficace dans son activité, ça va être intéressant. C'est des technologies sur lesquelles on investit. Il y a encore un gros gap d'usage. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on est encore dans un secteur qui est très peu digitalisé.
Vous dire par là qu'il y a toute une pédagogie avant d'arriver.
C'est ça. Nous, on se concentre sur l'usage.
Après, peut-être que la jeune génération est peut-être plus prête à ce type d'innovation, non?
Alors justement, nous, c'est vraiment le parti pris de Choco, c'est de se dire qu'on a une application qui correspond aux jeunes, mais aux moins jeunes. On a vraiment tout type de restaurateurs. Ça va de l'étoilé au kebab qui utilise Choco. Parce que c'est extrêmement simple. Et donc ça, c'est vraiment le parti pris et l'objectif dans notre développement, c'est de garder cette simplicité, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une application qui correspond à 70-80% du marché, et de pas être vraiment spécialisé dans les restaurateurs un petit peu tech ou digitaux. Qui pourrait adopter ce type de technologie.
Voilà, une belle réussite franco-allemande, Choco donc, avec en tout, je crois, 250 millions d'euros levés depuis votre naissance. Donc, c'était en 2018. Merci C'est beaucoup, ça. Hugo.
Merci à vous.
Hugo Porcher, donc, cofondateur de Choco France et général manager de Choco France. Et tout de suite, direction New York, on retrouve avec plaisir Sabrina Cagliozzi.
Tech & Co. What's up, New York?
Bonsoir Sabrina, ravie de te retrouver, comme chaque soir.
Hello, François, de même.
Alors Sabrina, tu as sélectionné pour nous deux actus. On va parler télétravail dans quelques instants, mais auparavant, on va débuter par Bonusly, qui est une start-up qui aide les employés à être reconnus pour la qualité de leur travail. Et Bonusly lève un joli bonus de 18 millions de dollars.
Et oui, alors on sait, tout le monde veut un bon salaire, des avantages sociaux, mais les employés veulent également se sentir valorisés et obtenir une certaine reconnaissance pour leur travail quotidien et leurs bonnes actions. En reconnaissant ces efforts, l'employeur participe à améliorer leur expérience et à maximiser la réussite, bien sûr, de l'entreprise. C'est un gros facteur d'engagement, de fidélisation aussi des talents. Selon une étude récente de SurveyMonkey, 82% des employés estiment que la reconnaissance au travail est primordiale pour leur bonheur au travail, leur bien-être au travail. Selon une autre enquête, 56% des responsables RH soulignent que les programmes de reconnaissance des employés les aident à embaucher les meilleurs talents. Alors, dans ce contexte, et dans le contexte actuel, surtout où le marché de l'emploi est toujours aussi solide, en tout cas aux États-Unis, il n'est pas surprenant de voir toutes ces start-up qui facilitent la reconnaissance des employés recevoir beaucoup d'attention de la part des investisseurs. On a Work Angel qui a levé des millions de dollars auprès de VC de renom. Pareil pour Fringe. Et c'est également le cas donc pour notre start-up du jour, Bonusly, qui a été fondée il y a un petit moment déjà, 2013, par Raphaël Crawford Marx. La société annonce donc une levée, tu l'as dit, de 18 millions de dollars. C'est une série B qui porte à 32,4 millions de dollars le montant levé depuis son lancement. La plateforme capture et analyse toutes les données des entreprises pour voir comment elles fonctionnent. Chaque mois, par exemple, les employés reçoivent des sommes, sont allouées des sommes d'argent qu'ils donnent sous forme de petits bonus à leurs collègues pour reconnaître leur contribution, leur travail. Les bonus versés sont visibles sur une page qui est accessible à tout le monde au sein de l'entreprise. Ces bonus peuvent être dépensés en carte cadeau, Amazon ou autre, mais aussi en cash ou en donation des œuvres de charité. Bonusly indique qu'en moyenne, les utilisateurs reçoivent 2 récompenses de leurs collègues et managers par semaine. Alors, fin janvier 2023, Bonusly comptait 3175 clients et près de 400 000 utilisateurs. Après avoir déployé Bonusly, plus de 9 clients sur 10 ont noté une amélioration dans l'engagement de leurs employés. 88% ont noté une amélioration du moral des employés, 89% une meilleure satisfaction de ces employés. C'est ce qu'offre Bonusly. cette société qui, avec l'argent levé, veut notamment ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, étendre aussi le catalogue des récompenses, des bonus, et la société, pour changer, et figure-toi, François, basée dans le Colorado.
Tiens. Très belle région, le Colorado, d'ailleurs, au passage.
Ça change.
Oui, ça change un petit peu. Ouais. Dans l'actualité aussi, eh bien Sabrina, la start-up californienne Gable qui lève 12 millions de dollars pour faciliter le télétravail. Tu vas tout nous expliquer.
Oui, quand on regarde les options de télétravail, de flexibilité de lieu de travail, ça peut être assez compliqué à la fois pour les employeurs et les employés. C'est là qu'intervient, qu'entre en jeu Gable qui veut en fait faciliter les choses pour tout le monde. Les employés, les employeurs, tout le monde. La start-up a développé cette plateforme Gable qui permet donc de gérer les options de télétravail grâce à son portail. Les employés peuvent en effet, par exemple, chercher et réserver un endroit au sein d'un espace de travail qui est disponible parmi les 26 pays qui sont présents au sein de ce portail. L'employeur peut, de son côté, gérer directement les paiements nécessaires pour réserver ces espaces ou autres. Il y a une multitude d'études qui montrent à quel point la flexibilité du lieu de travail compte pour les employés, mais que bah, dans le même temps, il y a quand même pas mal d'inconvénients liés au télétravail. Les employés se sentent par exemple déconnectés de leurs collègues, se demandent aussi si c'est pas un frein dans l'évolution de leur carrière. Pour les employeurs, les embauches à distance permettent en général de créer des équipes les plus solides et qui conviennent le mieux à leur entreprise, mais bah, côté inconvénient, là, ils doivent aussi gérer leur budget et trouver comment extraire de la valeur de leur bureau. Bref, ça reste donc compliqué. C'est ce problème que veut résoudre donc Gable. Le portail ne vous montre pas seulement quels sont les endroits disponibles pour ce télétravail, pour votre budget, mais ça va vous montrer aussi si vous avez, par exemple, d'autres collègues qui ont réservé le même endroit au même moment. Gable va automatiquement vous mettre à côté. Selon Gable, les entreprises qui utilisent son portail ont vu une augmentation de 75% de l'intérêt de leurs employés à se rendre dans un espace de travail. Gable va également choisir tous les espaces avec des critères bien particuliers hein, pour être sûr qu'il y a des avantages qu'on peut y trouver à chaque fois, des connexions internet top, une cuisine également, c'est ce qui est demandé le plus souvent. Gable repose sur un modèle de pay as you go, c'est-à-dire l'entreprise paye au fur et à mesure hein, des services et des endroits réservés pour donner aux sociétés le contrôle bien sûr de leurs dépenses. Gable a fait savoir que plus de 5000 employés utilisent aujourd'hui ces services et que les employés ont multiplié par 4 à 5 leur productivité, leur collaboration, leur satisfaction. Bref, c'est du too good. Avec l'argent levé, la société compte embaucher et améliorer son offre. Et le headquarter, le siège de cette société est du côté de la Californie à San Francisco, François.
Merci beaucoup Sabrina. Voilà la sélection d'actu de ce mardi soir 28 février. Sabrina Cagliosi, qu'on retrouve demain, bien sûr. À demain, Sabrina. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. On va attaquer notre deuxième heure avec, au sommaire, tiens, OLEDcom qui remplace le Wi-Fi par la lumière. C'est ce qu'on appelle le Li-Fi. Et vous allez voir que les usages sont de plus en plus nombreux. Et puis, en toute fin de Tech & Co, on recevra deux startups qui entrent au Next 40. Plus que des startups, ce sont de vraies pépites liées à l'électrique et à la mobilité que nous recevons tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous allez rester avec nous et j'espère que vous passez un bon moment. Tech & Co revient dans un instant avec Frédéric Bianchi pour l'actualité de ce jour. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Journaliste à BFM Business et BFMTV.com. Dans l'actualité, les taux se resserrent sur TikTok. Frédéric, après la Commission européenne, ça commence aussi à grincer des dents, mais ça fait un moment que ça grince des dents, du côté des USA.
Voilà, aux États-Unis, TikTok, on le sait, donc c'était... Alors, TikTok avait failli être carrément interdit, ça c'était sous Donald Trump.
À l'époque de Trump, bien sûr.
Donald Trump. Joe Biden était revenu sur cette décision, mais malgré tout, le gouvernement américain a, ça on s'en souvient, c'était en janvier, a restreint, interdit même l'usage, le téléchargement, l'utilisation de TikTok pour les fonctionnaires de l'État fédéral. Hein, donc tous les agents de l'État central américain ont eu 30 jours pour supprimer TikTok, l'application chinoise, les agences fédérales américaines ont embrayé le pas. Ensuite, c'est la Commission européenne, hein, c'était le 23 février dernier, qui a interdit l'utilisation, l'usage de TikTok à tous ses fonctionnaires. Depuis quelques jours, c'est le Canada. Aujourd'hui, on apprend que c'est le Danemark qui l'interdit aux députés et aux fonctionnaires d'État aussi. Donc voilà, de
ça
plus
fait vraiment
en plus
une traînée de poudre.
Exactement. Alors, on ne sait pas si c'est par mimétisme, mais s'il y a des informations qui circulent au sein des différents gouvernements occidentaux.
On n'arrive pas à savoir ça. Hein.
Non, voilà, on ne sait pas. Alors, en France, il y a une commission d'enquête qui a été ouverte par le Sénat. Il n'y a pas, pour le moment, d'interdiction de la part pour les fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok. Alors, on se demande ce qui se passe, parce que TikTok est là depuis longtemps. Eh bien, ben, c'est toujours les menaces que fait planer TikTok. Hein. TikTok, on sait, est une entreprise chinoise hein, qui appartient, un service chinois qui appartient à la société ByteDance. Et donc, qui dit chinois et tech, eh bien, dit soumission au gouvernement et au parti communiste chinois. Alors, TikTok essaie de se défendre, assure que ses serveurs sont situés aux États-Unis ou en Europe, mais malgré tout, on sait que TikTok peut avoir accès aux données des utilisateurs, les données de localisation, les centres d'intérêt des différents des Occidentaux qui utilisent TikTok. On rappelle, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, à des centaines de millions aux États-Unis, en France, en Europe. Et donc, TikTok se défend sur ces points-là, en disant que non, ils ne sont pas soumis au gouvernement chinois, même si le gouvernement chinois, hein, c'est ce que répond TikTok, leur demandait de leur fournir des données, ils ne les fourniraient pas. En attendant, il y a quand même pas mal de faits troublants. Hein. TikTok a admis que certains de ses salariés avaient pu accéder à des données privées d'utilisateurs occidentaux et que même certains employés avaient utilisé TikTok pour suivre des journalistes. C'est en décembre que Biden s'avait reconnu ça, pour suivre des journalistes qui avaient révélé des informations sur Biden, sur l'entreprise mère de TikTok. Donc voilà, alors pour le moment, pas d'interdiction pour les utilisateurs, hein, mais c'est vrai qu'on sait que ça a pu être fait par le passé. Wish, par exemple, là, l'application de e-commerce avait été interdite en France, donc on sait qu'interdire un service, aussi populaire soit-il, bah, c'est pas impossible, même si pour le moment ça reste circonscrit aux fonctionnaires d'État.
Oui, et puis ça fait une mauvaise publicité
aux États-Unis,
pour ce service TikTok qui vit à 100% de la publicité. Est-ce que les annonceurs vont, au bout d'un moment, se dire bah écoute, non, bah, j'arrête d'investir des millions et des millions sur TikTok? Ça va être très intéressant de voir comment tout ça se poursuit. Dans l'actualité, on va parler de Tesla. Alors, on va beaucoup parler de Tesla cette semaine, puisque jeudi soir prochain, Julien Bonnet sera là pour nous commenter la Tesla Investor Days, qui va être un grand rendez-vous présenté par Elon Musk, qui va justement tracer un petit peu l'avenir de Tesla. Hein, mais tu ne vas pas nous parler de ça. On va évoquer avec toi cette construction d'une usine au Mexique.
Alors, on en saura beaucoup plus demain. C'est Tesla qui va le dévoiler les détails. Mais là, c'est le président hein, mexicain en personne, hein, Andrés Manuel Obrador, eh bien, qui a annoncé, avec une grande fierté évidemment, que Tesla allait ouvrir une usine donc à Monterrey. Monterrey, c'est à 200 km de la frontière américaine. Hein, ouais. C'est un peu le poumon économique du Mexique. Donc, une usine Tesla au Mexique. Le Mexique, c'est un pays très important, de plus en plus important pour la production automobile. Ce sera donc la 7e usine de Tesla. Alors, ce qu'on attend de la confirmation de Tesla, c'est de savoir de quel type d'usine il s'agira. On ne sait pas si c'est une gigafactory qui va produire des batteries ou si ce serait une usine d'assemblage d'automobiles comme Tesla en a. En tout cas, ce sera la 7e usine de Tesla. Tesla, on le sait, est présent en Chine, est présent aux États-Unis et en Europe, à Berlin. Donc voilà, plus de détails sans doute demain. En tout cas, voilà, c'est Tesla repart assez fort en 2023 et Elon Musk aussi. Hein. On avait fini l'année avec un Elon Musk qui avait perdu son titre de première fortune du monde.
Qui était devenu très pauvre.
Hein. Il était tombé à 130 milliards de dollars. Ouais. Rendez-vous compte. Eh bien, il est remonté depuis. Ah. Il est remonté. Ouf. Ouf de soulagement.
Nous voilà
rassurés, très soulagé. Frédéric. 50 milliards de dollars gagnés depuis le début de l'année. 187 milliards selon Bloomberg. Patrimoine d'Elon Musk qui est repassé ce lundi. Hein, ça s'est passé hier en clôture de la bourse. Qui est repassé devant notre Frenchie Bernard Arnault. 185 milliards. 2 petits milliards de plus pour Elon Musk. Mais en tout cas, voilà, ça va mieux pour Elon Musk qui a pris un peu de recul, qui va prendre un peu de recul au sein de Twitter et qui a relancé Tesla avec sa baisse de prix. Les ventes sont très bonnes et avec des annonces d'ouverture d'usine. Donc voilà, ça va un peu mieux. C'est un petit peu Elon Musk est un peu sorti de la tornade de 2022.
Oui, après, ce sont des fortunes théoriques hein, puisque ce sont des.
Ah, il faut vendre. C'est pas, voilà. Il n'a pas 187 milliards sur son compte en banque.
Non. Mais il doit en avoir quelques-uns quand même.
Il en a un petit peu. Hein.
Ça va être intéressant de voir aussi l'avenir de Twitter, etc., qui est, on va dire, un peu.
Il a annoncé qu'il lâchait la barre de Twitter en fin d'année.
Oui, fin d'année.
En théorie.
Dans l'actualité aussi, après Elon Musk, c'est Meta, Frédéric, qui ne veut pas se laisser faire par ChatGPT et qui veut avoir sa réponse dans l'IA et l'intégrer dans WhatsApp et Instagram.
C'est vrai que c'était un petit peu le dernier grand qu'on attendait hein, sur l'IA, sur l'intelligence artificielle
générative. Et puisque Google et Microsoft ont
On a Google, on a Microsoft, on a OpenAI donc avec ChatGPT. Et donc Mark Zuckerberg a annoncé alors de manière assez sobre, hein, c'est simplement un statut sur Facebook. Hein, il dit « Nous publions un nouveau modèle de langage d'IA à la pointe de la technologie » appelé LAMA, 2LAMA, conçu pour aider les chercheurs à faire avancer leurs travaux. Alors LAMA, ça veut dire large, je lis, hein, Large Language Model Meta AI, donc intelligence artificielle. Alors, il se distingue clairement des autres. Ce ne sera pas un service clé en main qui sera fourni aux utilisateurs des services de Meta. On ne va pas le voir intégrer tout de suite dans WhatsApp, sur Facebook ou sur Instagram. Mais Mark Zuckerberg a dit que ce sera un outil qui va être mis à disposition des chercheurs. Ça laisse entendre que son système, son service n'est pas encore peut-être aussi abouti que les autres. Hein. En tout cas, il ne veut pas le mettre tout de suite dans les mains du grand public. Il dit qu'il y a encore des travaux pour faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse gérer les risques de partialité, de commentaires toxiques de la part des utilisateurs. Donc voilà, il y a encore des travaux qui vont être faits. En tout cas, Meta va le mettre à la disposition des chercheurs pour améliorer donc les services d'IA et pour développer de nouveaux services à l'avenir. Ça s'appelle donc LAMA. On rappelle que Meta avait déjà eu des incursions dans l'intelligence artificielle. On se rappelle un service qui s'appelait Make Video. C'était un petit service qui avait été assez précurseur, hein, on rentrait un texte et à partir de ce texte-là, l'intelligence artificielle de Facebook créait une vidéo à partir de ce qu'on avait écrit. Donc voilà, Facebook avance, mais on n'aura pas tout de suite un service ChatGPT sur notre WhatsApp à la mode Facebook, exactement.
Ouais. Il faut savoir que Facebook investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et notamment grâce à Yann LeCun, qui est le patron de l'intelligence artificielle hein, de Meta, qui est un éminent spécialiste de l'IA, qui travaille à Paris avec toute une équipe très brillante sur ce sujet. Dans l'actualité aussi, c'est le Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end à Paris. L'occasion de nous pencher, si vous voulez bien, sur un secteur qui, grâce à la technologie, s'éloigne un peu des champs. Machine à vendanger, tracteur du futur, CNH, qui est le leader mondial, développe des outils connectés pour les agriculteurs afin de les aider à optimiser leur rendement. Je vous propose de regarder ce reportage aux États-Unis qui a été réalisé par Margot Vuillet, Luc Chagnon et Alexandra Paget. Et on revient juste après.
Phoenix, Arizona, bienvenue dans le Matrix agricole. Au milieu des champs, des tracteurs du futur équipés de caméras à 360 degrés, de radars, GPS, détecteurs, le tout relié à une simple application développée par CNH, accessible sur un simple smartphone ou une tablette, ce qui permet à Jason Breuer d'avoir une vue globale sur l'ensemble de son exploitation.
On collecte les informations agronomiques, les meilleurs rendements, le moment où l'on doit appliquer un protocole particulier. Les données sont connectées à une plateforme qui les analyse et s'assure qu'on fait le meilleur investissement.
Cette année, CNH présente sa dernière machine à vendanger fabriquée en France. New Holland Broad détecte son environnement 33 fois par seconde via 3 caméras et peut s'adapter aux différentes largeurs de rangs de vigne. Thierry Lebriquer, responsable du marché mondial du secteur fruits et légumes de CNH.
Alors cette machine est équipée d'un système de caméras 3D qui permet de reconsolider en fait en vue de dessus le rang de vigne ou d'olivier et permet de guider la machine toute seule sans aucun signal GPS.
CNH a racheté ses principaux concurrents New Holland et Raven il y a 2 ans. La société a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'euros en 2021.
Voilà pour ces outils et ces tracteurs du futur pour terminer l'actu de ce mardi soir. Tech & Co, chaque soir, vous savez, toute l'actu tech, 20h, 22h à la radio, à la télé sur BFM Business et puis après les replays, les podcasts qui vous attendent. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Tech & Co, le retour avec Fabrice Marcella qui revient dans Tech & Co, c'est avec beaucoup de plaisir que je l'accueille. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir François.
Qui est maire du village Baïsé à Paris, vous le savez, un incubateur, un lieu où les startups sont là pour s'épanouir et pour grandir avec le boss qui est là, Fabrice. Fabrice, tu es venu avec 2 startups qu'on va présenter tout de suite et après on va t'écouter bien évidemment. Samia Badourali est avec nous, bonsoir.
Bonsoir Samia.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de Carl, qui est un service de protection juridique en ligne. Et puis Simon Parizeau est avec nous aussi. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Directeur général de Blanc, donc lancé en février 2021. Et vous simplifiez le quotidien des indépendants en leur faisant gagner du temps. Mais vous allez nous expliquer comment dans quelques instants. Justement, gagner du temps, parce que Fabrice, toi tu reçois évidemment beaucoup de startups qui, pour certaines, naissent et qui se retrouvent avec des problématiques de jeunes entrepreneurs. Par quoi il faut que je commence? Par comment créer ma société? Comment la gérer au quotidien? Et tout ça est très chronophage, en fait, et nous permet pas de nous focaliser, en fait, sur l'idée qu'on a eue au départ pour créer cette start-up.
Chronophage, je crois que c'est le bon mot. T'as raison, François. Ce que je souhaitais partager avec toi ce soir, c'était le quotidien de la gestion d'entreprise quand tu es une TPE, un freelance ou une start-up. En fait, ces entrepreneurs-là ont besoin d'être polyvalents, autonomes, pour pouvoir réussir leur pari de création d'entreprise. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi, je dirige un incubateur qui s'appelle le Village by CA, Paris. Et depuis 9 ans, j'ai été confronté à ces problématiques-là qui m'empêchaient certaines fois peut-être de me concentrer sur l'essentiel. Et puis, je pense que je ne suis pas le seul en France, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais on compte près d'un million de start-up, un million de freelance, un peu plus de 2 millions de TPE. Donc ça fait quand même un grand nombre de personnes qui rencontrent ce type de problème. Alors, quels sont ces problèmes ? En fait, bien souvent, quand tu démarres ton entreprise ou quand tu as une petite entreprise, tu n'as pas tous les moyens qui te permettent de recruter des collaborateurs, d'avoir les finances nécessaires ou le temps même nécessaire pour affronter toute la complexité de gestion d'entreprise. Alors, ça veut dire quoi, la complexité de gestion d'entreprise ? C'est un, il faut que je trouve des clients, il faut que je puisse les facturer. Une fois que j'ai facturé, j'ai fait qu'une partie du job. Encore faut-il que je puisse recouvrir mes créances. Ensuite, il faut que je puisse gérer mes dépenses, que je puisse recruter, que je puisse gérer mon temps, justement, entre mon temps commercial et l'exécution de ce que j'ai vendu. Donc, alors, on voit bien qu'il y a un ensemble de tâches.
Non, mais quand on est dans une grande boîte, on a des salariés qui s'occupent de ça.
Il y a des gens qui sont dédiés à ça.
Voilà, mais quand on est
un entrepreneur.
Quand on est un jeune entrepreneur ou une TPE, on n'a pas forcément des moyens monstrueux.
Tu es une femme ou un homme orchestre.
C'est ça.
Et tu dois pouvoir maîtriser, finalement, de la finance d'entreprise à l'acquisition de nouveaux clients. C'est tous ces éléments-là que tu dois pouvoir gérer. Et donc, moi, j'ai la chance quand même d'être dans un incubateur, dans un écosystème extrêmement dynamique où, autour de moi, j'ai un grand nombre de startups qui cherchent finalement à répondre à ce type de problème. Et c'est comme ça que j'ai pu, finalement, depuis 9 ans, en faisant confiance aux startups que j'accompagne ou que je rencontre, pouvoir consacrer davantage de temps à mes clients, que sont d'ailleurs des startups ou des corpos. Quelques exemples pour bien comprendre mes propos. Pour gérer mes dépenses, aujourd'hui, j'utilise Mooncard. Je gagne une demi-journée quand même de temps de travail, de temps administratif par mois. Pour gérer mon agenda, j'ai personne qui gère à ma place. Et donc, j'ai une start-up qui s'appelle Julides qui le fait à ma place.
Géré par l'IA, en quelque sorte.
C'est ça, effectivement. Il suffit de mettre Julie en copie et c'est elle qui va gérer mon agenda. C'est quand même ultra pratique. Et de nouveau, ça me permet de répondre aux demandes et aux sollicitations de l'ensemble de mes clients et concentrer de nouveau mes efforts là où je pense pouvoir créer de la valeur. Et donc, pour démontrer tout ça, je suis venu effectivement avec deux start-up ce soir qui, j'en suis certain, vont inspirer un grand nombre de TPE, start-up ou autres freelance pour pouvoir répondre à leurs problèmes du quotidien.
Et pour digitaliser ces tâches anxiogènes.
Exactement, anxiogènes et chronophages.
On va écouter Samia dans un instant, mais on va commencer par vous, Simon, donc avec Blanc. Présentez-nous Blanc et comment justement vous allez pouvoir aider Fabrice et les autres.
Alors bonjour à tous, bonjour François. Nous chez Blanc, on a choisi de partir exactement sur deux mots que vous avez cités, anxiogène et chronophage. On s'est aperçu effectivement qu'en allant consulter des indépendants, des freelances, des TPE, que c'était deux mots qui revenaient vraiment beaucoup. Chronophage, on passe beaucoup de temps, souvent les soirs et week-ends, à essayer de gérer ses factures, son administratif, ses clients, à côté de son vrai job en fait. Et anxiogène aussi parce que la création d'une entreprise, la gestion au quotidien, les problèmes juridiques derrière l'évolution d'entreprise, c'est aussi quelque chose qui fait peur. En général, on n'a pas la formation pour. On ne sait pas exactement comment avancer. Et pour essayer de régler ce problème-là, quand on a créé Blanc, donc en 2021, on est parti d'une autre observation. Probablement le meilleur endroit, la meilleure façon pour essayer de régler ces problèmes-là et automatiser un maximum de ces tâches chronophages, c'est le compte en banque, le compte dans lequel on va gérer ses paiements. Finalement, tout transite par ça. Les paiements rentrent, les paiements sortent vers les fournisseurs. On peut y associer des factures, on peut y associer des notes de frais, etc. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait chez Blanc. On a un compte pour les professionnels et autour de ce compte, donc ce compte, il permet de faire faire tout ce qu'on attend d'un compte, c'est-à-dire pouvoir être payé, avoir une carte qui fonctionne partout, etc. Mais surtout, autour de ça, on a un ensemble de services qui permettent de gagner du temps au quotidien, de s'enlever un peu de l'aspect anxiogène dont on parlait. Donc, par exemple, créer ses factures, créer ses devis. On peut aussi, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien auprès de nos clients, automatiser complètement tout ce qui est déclaration et paiement à l'URSSAF. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne et quand est-ce que je vais devoir déclarer. On s'en occupe à votre place. On gère aussi des aspects assurance, dont on parlera probablement avec Samia. On gère beaucoup de choses autour du compte qui permet de mettre globalement à nos clients types qui sont des indépendants, donc des personnes seules dans leur entreprise, de gagner un peu de temps, de gagner un peu de sérénité et de passer les soirs et week-ends plutôt avec leur famille qu'avec leur comptable ou juste leur facture, quoi.
Vous avez 50 collaborateurs aujourd'hui, 20 000 comptes ouverts. En tout cas, ça, les chiffres ont peut-être évolué. Mais pour que je comprenne bien tout ça, c'est l'IA qui le fait automatiquement. Ou est-ce qu'il y a des gens chez vous qui vont... des humains qui vont travailler à ma place?
Alors, avec 20 000 comptes ouverts et 50 collaborateurs, forcément, on ne peut pas gérer humainement l'ensemble des comptes et surtout sur l'ensemble des services que je décrivais.
Ou alors ils sont très forts.
Ils sont tous très forts, mais je voudrais quand même rendre à César ce qui appartient à César. On est obligé effectivement d'automatiser beaucoup de choses. Donc, on travaille avec énormément de technologies. D'ailleurs, une grosse partie de ces 50 personnes, ce sont des développeurs, ce sont des personnes au produit. D'accord. Et donc, l'essentiel de ce qu'on fait, on le développe, on met de la technologie qui permet d'automatiser quasiment tous les services dont je parlais. Et donc, il y a certaines tâches qui sont gérées par des humains, dès que c'est un petit peu subtil, qu'on doit forcément avoir un œil humain qui observe. Mais un maximum de ce qu'on fait, on essaie toujours d'avancer dans ce sens-là, on l'automatise. Quand on a besoin, on utilise de l'IA. Et en tout cas, on utilise à chaque fois de la technologie pour résoudre ça.
Très bien. Mais alors, vous dites qu'il faut ouvrir un compte. Mais j'ouvre un compte chez vous ou dans n'importe quelle banque et vous allez vous pluguer sur ce compte?
Alors, c'est un compte chez nous, et en tout cas, c'est ça qu'on promeut et c'est ça qui fonctionne le mieux. Le principe, c'est effectivement d'ouvrir un compte chez Blanc, et dans ce cas-là, vous avez accès à non seulement tout ce qui concerne le paiement, mais à l'ensemble de services que je décrivais. Et donc, forcément, à partir du moment où vous avez un compte chez Blanc, vos factures y sont rattachées automatiquement, les déclarations URSSAF dont je parlais sont faites automatiquement, etc. Et tous les services s'enchaînent, tout simplement parce qu'on maîtrise le compte et donc on est capable d'automatiser.
Moi, je vous posais cette question parce qu'aujourd'hui, on peut se pluguer en fait sur des comptes bancaires déjà existants, vous récupérez l'information et après vous pouvez la malaxer, la mouliner pour en apporter des services.
Alors c'est des choses qu'on fait. On a des systèmes qui permettent effectivement d'aller se brancher, et depuis qu'on est sorti, on a ça, qui permettent d'aller se brancher sur n'importe quel compte tiers. Et donc, ça nous permet surtout, en fait, de gérer plusieurs comptes à la fois. C'est-à-dire, un client va en général avoir un compte chez nous, va potentiellement avoir un compte aussi dans une autre banque. Et on va permettre de gérer comme ça l'intégralité de sa vie perso et professionnelle de la même façon. Vous avez, par exemple, déjà un compte professionnel, un compte personnel. On va agréger les deux plus le compte Blanc et pouvoir gérer tous les services dont je parlais sur ces trois comptes à la fois.
Fabrice.
Oui, moi j'avais une question pour toi, Simon, c'est que quand on est une TPE ou un freelance, donc on manque de temps, on manque de collaborateurs, mais on manque d'argent aussi. Combien ça coûte d'aller sur Blanc, en bon père de famille? Des éléments qui sont importants, me semble-t-il, en tout cas pour ta cible.
Combien me coûtent mes longues soirées de week-end?
Alors, c'est une très bonne question et c'est surtout quelque chose qu'on a observé dès le début, c'est le client type auquel on s'adresse est assez sensible à ça. Finalement, un indépendant, dans un certain nombre de cas, pas un chiffre d'affaires qui est si élevé. Et donc, on a dû essayer de faire fonctionner une offre qui fonctionne à bas prix. Donc, nous, nos offres, c'est 8 euros par mois ou 17 euros par mois si vous voulez avoir beaucoup plus de services autour. Ça commence à 8 euros par mois. Donc, ça reste dans les plus bas prix du secteur. Et justement, on a construit tous ces systèmes de paiement et les systèmes dont je parlais de zéro et directement avec les bonnes technologies, des technologies modernes, qui nous permettent de faire fonctionner ça à un coût de revient qui est extrêmement bas, et donc de proposer derrière une offre qui est à 8 euros par mois.
D'accord. Et quel que soit le chiffre d'affaires que je fais, et ça sera 8 ou
17
euros.
Quel que soit le chiffre d'affaires, voilà, exactement. D'accord. On va avoir une limite entre les deux qui sera sur l'argent qui peut être payé par carte, etc., comme dans n'importe quelle banque. Mais par contre, oui, vous avez l'ensemble des services directement dans les 8 euros par mois.
Merci Simon.
Merci
à
vous.
Ça s'appelle Blanc. Samia, à nous.
À nous.
Samia Badourali, donc présidente de Carl, créée en 2019 à Amiens. Alors vous êtes un service de protection juridique en ligne. Justement, tout ce qui est protection juridique, c'est important aussi pour une entreprise, forcément, Fabrice. Expliquez-nous ce qu'est Carl.
Avec grand plaisir. Donc nous, Carl, on est une assurtech et on s'est focalisé sur un point, l'accompagnement juridique du quotidien des entrepreneurs. Comment on a fait ça? On est parti de leurs besoins du quotidien, vraiment. On a créé des services autour de ces besoins et on a transformé ces services en un produit de protection juridique. L'idée, c'est que avec un abonnement mensuel à bas coût, l'entrepreneur va pouvoir accéder à tous nos services. Et dès qu'il a besoin donc, de faire appel, par exemple, il a besoin de modèles de documents. Quand il se lance, il a besoin de modèles de statuts, de packs d'associés. Il fait appel à nous, on lui fournit. Il a besoin de faire appel à un avocat pour faire relire ses modèles. Il peut avoir accès à un service de visioconférence, par exemple, avec des avocats. On sait que c'est un vrai sujet, hein, de trouver des avocats quand on est entrepreneur. On peut avoir un avocat dans son réseau, mais pas forcément un avocat dans tous les domaines d'intervention.
C'est ça. On connaît un avocat, mais voilà, une protection intellectuelle, enfin des choses comme ça, c'est vraiment...
C'est spécifique, voilà, souvent, c'est spécifique, oui. Là, vous avez accès à des avocats dans 16 domaines d'intervention. Donc demain, vous voulez faire relire une clause d'un contrat qui vous pose une difficulté, ben, vous avez accès à un avocat en visioconférence dans ce domaine-là. Vous avez besoin d'embaucher, vous prenez nos modèles de documents, vous faites relire par un avocat en droit du travail. Donc vraiment, voilà, un accompagnement global. On sait que le sujet principal pour les entrepreneurs, c'est à la fois de trouver les avocats, mais aussi de les financer. Et avec notre système d'assurance, eh ben, vous avez accès à des avocats qui sont payés par la protection juridique Carla.
200 000 clients au 1er janvier 2023.
Oui.
Donc ça marche.
Ça marche.
Fabrice, intéressant ça, hein ?
Oui,
ce service.
C'est intéressant. Et effectivement, quand on connaît le coût d'un avocat, de nouveau, hein, dans cette idée où j'ai besoin d'optimiser mes finances, la question que je souhaitais moi te poser, c'est comment tu recrutes tes avocats? Parce qu'il y a une relation de confiance quand même qui s'instaure entre son client et son avocat. Comment se fait cette sélection? C'est Carl qui le fait?
C'est Carl qui le fait. Alors, moi, j'étais avocate de formation. Ça m'a toujours, justement, horripilé de voir que les entrepreneurs faisaient pas appel à des avocats parce qu'il y avait ce sujet de financement et d'accès. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Carl, la protection juridique des entrepreneurs. Et effectivement, on a sélectionné des avocats, donc, par domaine de compétences, mais aussi par domaine, enfin par niveau d'ancienneté, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir au minimum 3 ans d'ancienneté dans le domaine d'intervention, de pratique, tout à fait. Et puis aussi, il faut qu'ils aient une appétence pour le digital. Hein. On est une assure tech, donc il y a l'aspect tech. Il faut qu'ils aient envie de parler à des avocats, enfin des clients en visioconférence. Également, c'est un sujet.
Et ça coûte combien ?
Alors, ça coûte 12,50 € TTC par mois pour avoir accès à des modèles de documents, avoir accès à une information juridique 6 jours sur 7, mais aussi à des avocats en visioconférence. Tu parlais du recouvrement de factures impayées, bah, c'est un sujet, hein, la trésorerie. Pas laisser traîner ces factures impayées, bah, vous avez également accès à une interface de recouvrement qui est intégrée chez nous. Et puis, si vous avez un litige avec un client ou un fournisseur, c'est également pris en charge par l'assurance.
D'accord.
Donc, vraiment, l'accompagnement du quotidien. Pour quelqu'un qui se lance, faut faire appel à Carl.
Et là, vous avez plusieurs offres ou c'est 12,50 € par mois pour tout compris, en fait?
Pour le package que je viens de vous énumérer, donc ça coûte 12,50 €. Après, on a d'autres offres. Quand les entreprises grandissent, elles ont d'autres besoins. Là, vraiment, ce focus, c'était pour avoir accès à un service simple. Du quotidien, vraiment, voilà, des difficultés que vous pouvez avoir quand vous lancez, que vous n'avez pas de service juridique internalisé.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 200 000 clients au 1er janvier 2023. Quel type de clients avez-vous? Quel type de société? Alors, des start-up qui pourraient être chez Fabrice, des TPE
Tout à fait. On a beaucoup de start-up, hein, des incubateurs qui souscrivent aussi à notre offre pour accompagner leur start-up incubée. Et puis également, on a principalement des entreprises de moins de 5 salariés. Comme je vous le disais, qui n'ont pas forcément de services juridiques internalisés.
Oui, en tout cas, je trouve que le service est très pertinent parce que c'est un peu, tu sais, quand tu as le symptôme d'une maladie, tu vas sur Doctissimo et donc tu es souvent très mal renseigné et donc tu peux faire des erreurs finalement dans le diagnostic.
Tu crois que tu vas mourir le lendemain.
Et dans la solution pour régler ton problème. Et là, généralement, sur le sujet juridique qui coûte de fait très cher lorsqu'on cherche à faire appel à un avocat, ben là au moins, voilà, on a des conseils d'un professionnel sur un sujet et donc permettant d'éviter effectivement des dérives de ce sujet.
Mais Samia, ça n'existe pas déjà, ces conseils comme ça, ces protections juridiques pour entreprises? Alors, en quoi vous cassez en fait le modèle?
La protection juridique, c'est un marché qui existe, hein, depuis. C'est l'assurance qui existe depuis des années.
C'est un marché énorme, hein, plus d'un milliard et demi, je crois.
C'est ça, plus d'un milliard et demi, mais c'est pas très connu, c'est pas utilisé. Mmh. Et donc, on a réinventé les codes via le digital, hein, notamment, de la protection juridique. Nous, ça nous paraît fou chez Carl de nous dire qu'aujourd'hui, tout le monde est assuré. Pour une fuite d'eau, par exemple, mais personne n'est assuré sur ses problèmes juridiques, alors que le droit est partout. C'est le quotidien des entrepreneurs. Hein. On parlait de l'embauche, on parlait de la création, des factures impayées, tout ça, c'est du juridique au final. Hein.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Fabrice.
Merci François.
D'être passé beaucoup sur le plateau de Tech & Co. Et merci à Simon Parizeau, de Blanc et Samia Badourali, présidente de Carl. Et vous restez avec nous. Tech & Co se poursuit dans quelques instants. Bientôt 21h30, on va retrouver l'info éco. Et puis juste après, on parlera d'un Wi-Fi qui fonctionne par la lumière. Ça s'appelle du Li-Fi. C'est une innovation française. Et on évoquera aussi deux belles boîtes mobilité qui sont apparues dans le Next 40 pour cette nouvelle édition de 2023. Vous restez avec nous. À tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
Benjamin Azoulay est avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Fraîchement arrivé de Barcelone au Mobile World Congress, où nous étions d'ailleurs, Tech & Co, hier soir, pour parler de toute l'actualité des télécoms, des smartphones, des opérateurs, etc., etc. Benjamin, vous êtes le président et fondateur de OLEDcom, et donc vous êtes une société française qui est un spin-off de l'université Paris-Saclay, et vous êtes leader des solutions de communication optique par la lumière invisible, ce qu'on appelle le Li-Fi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Li-Fi ? Et si on peut le comparer au Wi-Fi ?
Donc juste un petit rappel, le Li-Fi c'est une communication optique sans fil, c'est-à-dire qu'on va utiliser des LED que l'on va faire clignoter à très grande vitesse, 30 millions de fois par seconde, 30 MHz, pour se connecter à Internet ou tout simplement pour communiquer à très grande vitesse. Le gros avantage par rapport aux radiofréquences, c'est qu'elles ne sont pas hackables depuis l'extérieur de la pièce, pas brouillable depuis l'extérieur. Voilà.
Câble, ça veut dire qu'on peut pas pirater, en fait.
Voilà. Ça traversera pas les murs, oui, contrairement aux radiofréquences.
D'accord.
Donc, ça confère à cette connectivité sans fil. C'est un peu comme de la fibre optique. Ça a les caractéristiques de la fibre optique, mais en espace libre. Des caractéristiques très intéressantes en termes de cybersécurité. Ça n'interfère pas. Donc, si vous êtes dans un environnement où les radiofréquences peuvent interférer avec les équipements, bah vous avez plutôt intérêt à utiliser du Li-Fi que du Wi-Fi.
Voilà. En gros, à partir du moment où je reçois donc ce faisceau de lumière, quand je suis en dessous de ce faisceau de lumière, je vais pouvoir être connecté à Internet.
Absolument.
Et dès que je sors de ce faisceau, c'est fini.
C'est fini. Et du coup, ça pourrait être considéré comme un inconvénient, mais dans certains cas d'usage, c'est un gros avantage.
Ça fait des années que vous êtes sur ce concept-là.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça donne, en fait ? Est-ce que ça... Alors, ça marche, ça on le sait, mais est-ce que vous avez réussi à trouver des cas d'usage pour cette technologie ?
Alors, oui, on a réussi à trouver des cas d'usage, et peut-être que là où on a beaucoup évolué, c'est qu'on essaye de remplacer le Wi-Fi. En fait, aujourd'hui, on n'essaye plus de remplacer le Wi-Fi, qui fonctionne très bien, qui est connecté dans tous les, qui est intégré dans tous les smartphones, dans tous les PC. Aujourd'hui,
qui évolue aussi lui-même.
Exactement, et qui a beaucoup progressé, le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7, avec les vitesses notamment assez impressionnantes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à tous les environnements où le Wi-Fi est interdit. Pour des raisons souvent de cybersécurité. Vous allez au ministère des Armées, par exemple, à Ballard, juste à côté.
Oui, c'est vrai. Ils sont juste
vous
à côté.
N'avez pas de Wi-Fi. Le Wi-Fi pose trop de problèmes de cybersécurité pour que l'armée puisse l'installer dans ses locaux.
Mais ils communiquent comment alors ?
Ils ont du câble. Et c'est là que le Li-Fi apporte.
Sur un smartphone, c'est pas facile.
Voilà. Ils ont du câble partout. Ils ont des câbles, du RJ45 partout. Et nous apportons cette solution qui permet d'apporter du sans fil dans ces environnements où on n'a pas le droit d'utiliser ces ondes radiofréquences. Et là, du coup, en développant cette idée que le Li-Fi est une solution de remplacement de câbles dans ces environnements-là, on a petit à petit trouvé des cas d'usage. Alors, des gros cas d'usage que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est le spatial. L'intérieur d'un satellite ou d'un lanceur, c'est une masse de câbles énorme. Je vous invite à voir une photo de Thomas Pesquet. À l'arrière de la photo, vous verrez une masse de câbles absolument impressionnante. Donc nous apportons dans ces environnements-là une possibilité de remplacer du câble, de gagner du poids et donc d'économiser énormément d'énergie à la mise en orbite, par exemple. Dans le domaine de la défense, tous les bureaux, toutes les tentes de commandement des armées qui sont aujourd'hui câblés, ben on apporte cette facilité d'installation, cette rapidité à la mise en œuvre, qui permet, tout en assurant une cybersécurité quasi absolue, équivalente à celle du câble.
Benjamin, c'est très beau sur le papier tout ça, mais encore faut-il avoir un device, un appareil compatible avec votre technologie.
C'est exact.
Je prends mon téléphone aujourd'hui, je ne peux pas me connecter au Li-Fi.
Non. Et c'est la raison pour laquelle OLEDcom a développé une puce que l'on offre, on était au Mobile World Congress de Barcelone,
oui.
Grâce à nos accords avec ST Micro et avec une société qui s'appelle EasyIC, qui est une design house française, nous avons développé une puce qui permettra à terme d'intégrer le Li-Fi dans les smartphones. Ça prend un petit peu de temps, mais on commence à avoir des tablettes Bursi industrielles,
oui.
Qui commencent à intégrer cette technologie comme une tablette de la société Getac, qui permet aujourd'hui d'avoir du Li-Fi directement intégré dans les smartphones.
C'est-à-dire que là, vous allez prendre votre bâton de pèlerin et aller voir les constructeurs de smartphones, les Samsung, les Apple, tous les constructeurs chinois pour leur dire, attendez, regardez, cette technologie, c'est génial. Voilà. Ils doivent la connaître déjà, d'ailleurs.
Voilà, ils la connaissent. Mais les premiers cas d'usage qu'ils envisagent, c'est pas ce qu'on croit. C'est plutôt de transférer de l'information entre deux smartphones à très grande vitesse, de façon très sécurisée. Et c'est comme ça que ça
va. Ce que fait Apple avec AirDrop d'ailleurs.
Exactement. C'est un peu le AirDrop par la lumière qu'on envisage dans les années.
Et pour Android à ce moment-là.
Et oui, tout à fait. Ça marcherait à la fois sur Android et sur iOS de façon équivalente.
Et là, votre actualité, c'est que vous avez boosté en quelque sorte cette connexion Li-Fi qui aujourd'hui atteint des débits encore plus importants. C'est ça.
Nous avons présenté au CES de Las Vegas notre premier produit à 2 gigabits par seconde. En point à point sur un angle d'ouverture de 25 degrés.
Mmh.
Nous serons sûrement à plus de 4 gigabits par seconde à la fin de l'année. Donc ça va assez vite et notre rêve c'est d'être à 100 gigabits par seconde en 2025.
voilà. Ça donne le tournis tous ces débits. Merci beaucoup Benjamin.
Merci.
Voilà, innovation française. Ça s'appelle OLEDcom et vous restez avec nous. Tech & Co revient tout de suite.
Tech & Co. Plongé dans la French Tech.
Voilà, quasiment 10h moins le quart, c'était Tech & Co sur BFM Business. Nos deux invités, tout de suite, viennent d'entrer dans ce fameux classement, cette promotion 2023 du French Tech Next 40. Aurélien Demeaux est avec nous. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir.
Président d'Electra, on va parler de mobilité électrique ce soir avec nos deux invités. Et Nicolas Banchet est avec nous aussi. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Directeur général de Zip. Plug, voilà. Alors tous les deux, vous êtes dans les bornes, mais avec des différences assez étonnantes et ça va être intéressant justement de les découvrir. On va peut-être commencer par vous, Aurélien. Electra, donc vous êtes un spécialiste des bornes. L'idée, c'est que vous dites qu'il faut de plus en plus de bornes. Enfin, vous n'êtes pas le seul à le dire. Quand on est, tout comme moi, propriétaire d'un véhicule électrique, on se rend compte qu'il y a encore des trous dans la raquette, comme on dit. Présentez-nous, Electra.
Alors Electra, nous on est un opérateur de stations de recharge rapide. On déploie des stations de recharge qui permettent de charger vos voitures électriques entre 20 et 30 minutes. Et on est en train d'en déployer sur tout le territoire. En France et pas que d'ailleurs, puisque on a également démarré l'activité en Belgique, en Italie et dans d'autres pays européens. Donc l'objectif, c'est de créer un réseau qui soit massif, qui soit très dense et qui permette finalement d'enlever la contrainte potentiellement un peu logistique que suggère la voiture électrique. Parce que si vous demandez autour de vous, en fait, vous pouvez faire le test avec des amis de la famille, « Ah, mais pourquoi est-ce que tu passes pas à la voiture électrique ?» Et vous verrez que beaucoup de gens vont répondre « Parce que la recharge, ça n'a pas l'air encore complètement au point. Donc, j'attends de voir un peu comment ça se passe. » Et nous, notre objectif, c'est d'apporter une réponse à ça.
Le problème, enfin, il y a deux problèmes. Il y a l'autonomie du véhicule. Et les gens, ça leur fait peur, hein, de se dire, ben voilà, j'ai 200, 300 kilomètres d'autonomie, c'est pas beaucoup, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai plus d'électricité, voilà. Et puis, il y a aussi ce que vous disiez sur la recharge. Donc, vous, l'idée, alors, vous avez ouvert une première borne de recharge ultra rapide à Paris, qui est en souterrain, dans un parking Indigo. Quelle est la puissance de cette borne?
Alors, c'est deux bornes de 150 kilowatts. Donc ça permet de recharger une voiture, ce que je disais, en grosso modo une demi-heure. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que vous parliez d'autonomie,
oui.
En citant potentiellement 200, 300, 400 km d'autonomie.
Oui.
Quand on parle de voiture électrique, la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est l'autonomie. C'est vraiment c'est le premier réflexe.
C'est le réflexe, on va dire, thermique qu'on peut avoir.
Par rapport au thermique, mais en fait, quand vous parlez de voiture électrique, les gens qui achètent une voiture électrique, l'autonomie, c'est très secondaire, finalement, comme critère. Vous vous demandez pas si la voiture, elle fait 300, 400, 500 kilomètres. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez pouvoir recharger en énergie, c'est partout, sûr. Très rapidement.
On est d'accord que c'est pas encore le cas aujourd'hui en France, partout.
c'est pas tout à fait le cas, mais on est en train d'y travailler pour que justement ce soit le cas et que l'autonomie finalement soit beaucoup moins un sujet. La finalité, ce qu'on fait, de toute façon, oui, c'est se débarrasser du pétrole. Toute la mobilité, tout le transport, à part le train, fonctionne au pétrole en France. Donc les bateaux, les voitures, les cars, les camions, l'aérien, etc. Et nous, notre objectif, c'est de dire la feuille de route commune, c'est de se débarrasser du pétrole, c'est de passer à l'électrique. Et pour ça, il faut qu'on recrée les conditions pour que le passage électrique ne soit pas une contrainte, mais pour que ça se fasse quasiment dans les mêmes conditions, si j'ose dire, que le thermique aujourd'hui.
Alors, Electra a levé 175 millions d'euros ces deux dernières années. Vous avez des objectifs d'ouverture qui sont quand même assez importantes. Hein. 170 ouvertures de stations prévues sur 2023. Pas qu'en France, d'ailleurs. Hein. Vous êtes présent dans quel pays ?
On est présent en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Suisse et en Espagne.
D'accord.
Donc on est en train de massivement développer ce réseau au niveau européen. Plus on a un réseau qui est densifié, qui est large, qui est important, plus on va être intéressant pour l'utilisateur, pour les partenaires financiers. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une échelle assez importante. Si vous regardez Tesla et Ionity, qui sont deux grands réseaux en Europe, bah en fait ils sont sur une multitude de pays et ça leur donne une assise qui est très très forte.
C'est ça. L'objectif, c'est d'ouvrir combien de bornes de recharge en France ? Il manque combien de bornes de recharge en France, Aurélien ?
Alors nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est pas une affaire de bornes, c'est une affaire de voitures qu'on recharge. Et comme vous le savez, en fait, dans les bornes, il y a différents types de puissances et c'est pas en tartinant et en mettant des centaines de milliers de bornes de faible puissance qu'on arrivera à régler le problème de notre point de vue. Concrètement, ce qui se passe, c'est que soit vous avez une prise à la maison, on va en parler tout
oui,
à l'heure,
on en parle avec Ziplug.
Dans ce cas-là, vous chargez chez vous. Ok, très bien. C'est la grande différence avec le thermique. Hein, si oui, vous avez une petite pompe à essence.
Oui, ça serait génial. Pas génial, je ne sais pas trop d'ailleurs.
Et puis, soit vous allez charger sur le domaine public, enfin sur des bornes de recharge ouverte au public, et là vous allez plutôt chercher à vous charger rapidement. Donc nous, notre objectif, c'est de déployer entre 1500 et 2000 stations à horizon 2030, dont à peu près la moitié en France, et ce qui permettra une couverture géographique très très large, et voilà, ça permettra de faciliter les déplacements en voiture électrique pour tout un chacun.
Voilà, on va dire dans des axes routiers importants, c'est ça, l'idée c'est qu'il y ait du
trafic. Alors à la fois sur ce qu'on appelle l'itinérance, donc ouais, les axes routiers d'un point A à un point B, ouais, et également dans les métropoles urbaines, là où il y a beaucoup de gens qui potentiellement n'ont pas accès à une prise ou à un parking privatif. Ouais,
et qui ont quelques minutes pour recharger leur véhicule.
Voilà, c'est et l'idée. Qui comme ils font leur plein d'essence une fois par semaine aujourd'hui, ils feront leur plein électrique une fois dans la semaine en allant faire leurs courses ou en allant dans je ne sais quel lieu de commerce ou de destination.
Merci Aurélien, vous restez avec nous. Nicolas, donc directeur général de Ziplug, présentez-nous Ziplug s'il vous plaît.
Alors Ziplug, c'est une activité complémentaire à celle d'Electra. Nous on parle de recharge privée, à domicile ou sur lieu de travail. Et on va spécifiquement adresser le marché des immeubles. Immeubles résidentiels, donc les copropriétés, puis immeubles de bureaux.
Quelle galère ça.
Là où effectivement c'est compliqué de prendre des décisions. Les copropriétaires ne veulent pas payer pour leurs voisins pour recharger le beau véhicule.
Non, puis c'est d'une complexité. Enfin, la réglementation, même si elle s'allège, on le sait, elle est encore très lourde. C'est-à-dire qu'on avait le droit à l'antenne à l'époque pour la TNT,
voilà,
pour
le droit la à la télé. Prise.
C'est ça, la droit à la prise.
Il y a une dizaine d'années maintenant, mais voilà. C'est une solution qui existe, qui a le mérite d'exister, et qui ne résout pas tous les problèmes, et notamment dans les grands immeubles, où on ne peut pas chacun venir se brancher sur le compteur des parties communes qui sert par ailleurs à l'éclairage, aux ascenseurs, etc.
Et donc vous arrivez, en fait, votre solution, c'est de dire, ok, il y a cet immeuble, j'installe des bornes, je m'occupe de tout.
Voilà, on déploie l'infrastructure, on la finance, on l'exploite, on la maintient, et on délivre la recharge non pas comme une vente d'infrastructure, mais comme un service. C'est vraiment le modèle de la fibre appliqué à la recharge. Donc seule la personne qui souhaite bénéficier du service va souscrire un abonnement à The Plug.
Donc, typiquement, mon immeuble est câblé via The Plug, donc je vais me retrouver avec des bornes électriques. Chaque place de parking aura une borne. Enfin,
alors, on équipe la place de la personne qui souhaite.
Qui souhaite,
voilà.
D'accord.
Donc, au fur et à mesure, on fait évoluer l'infrastructure. Au départ, on a 1, 2, 3 utilisateurs. Là, aujourd'hui, on a des immeubles dans Paris avec 20, 25, 30 utilisateurs.
Très bien. Et donc, à partir du moment où vous installez cette borne, je peux y accéder moyennant un abonnement mensuel, c'est ça ?
Exactement, ouais. Un abonnement mensuel qui vous donne accès au service The Plug et qui inclut l'électricité nécessaire à la recharge du véhicule.
D'accord. Et donc, ça coûte combien, par exemple, un abonnement ?
En moyenne, on va être entre 20 et 40 euros. On a des chauffeurs de taxi ou VTC qui sont très gros rouleurs, qui sont dans les 80, 100 euros. Ça coûte 5 fois moins cher que le plein d'essence.
Parce que vous dites que c'est donc dans mon abonnement, moi en tant que particulier, j'ai la consommation électrique qui est comptée, ou est-ce que c'est en plus ?
Alors, on a les deux modèles. Soit vous souhaitez packager l'électricité pour payer tous les mois la même chose, et donc c'est vraiment le même modèle qu'un opérateur télécom. On a remplacé les gigaoctets de données par des mégawattheures d'électricité.
Mais je suis en illimité, comme certains...
Non, c'est pas en illimité. Vous avez, comme vous avez le forfait 10 gigas, 30 gigas, là, vous avez le forfait 1 mégawattheure, 2 mégawattheures, 3
mégawattheures. D'accord, ok.
Donc ça, on calibre au moment où le client souscrit son abonnement, on calibre le bon... package. Mmh. Et puis sinon, on a une offre au réel où vous payez X kilowattheure.
Est-ce que votre offre est financièrement intéressante pour les particuliers ? Parce que finalement, vaut mieux pas pour un particulier d'aller prendre son bâton de pèlerin, d'aller voir un électricien, d'installer sa borne dans son parking, aller voir sa copro pour expliquer pourquoi je vais installer ça. Et
ça, vous pouvez
et
le
voilà.
faire avec un droit à la prise.
Oui.
Donc ça... vous allez pouvoir avoir un devis.
Parce que je vais payer ma borne une bonne fois pour toutes,
oui.
avec en plus des aides la plupart du temps. Donc là, oui. parfois, elle revient à 0 euros.
Pas à 0 euros.
Pas loin, en tout cas. Enfin,
c'est un pourcentage qui est financé, donc ça ne revient pas à 0 euros.
Mais vous dépend des régions, je crois, non aussi.
Alors, il y a certaines régions qui ont mis en place des aides particulières, mais les aides, les clients The Plug en bénéficient de la même manière, ce sont les mêmes. Et après, vous avez toute la possibilité de faire évoluer l'infrastructure, ce que vous n'avez pas quand vous avez une personne qui va se connecter au compteur des parties communes, qui n'est pas fait pour ça. Donc là, nous, on a une infrastructure qui va être vraiment dédiée aux bornes de recharge et qui va pouvoir évoluer dans le temps jusqu'à couvrir potentiellement 100% des besoins d'équipement, 100% des places de parking.
Aujourd'hui, comment se découpe votre business ? Particulier, entreprise, c'est 50-50 ?
C'est deux tiers particulier, un tiers entreprise, avec un phénomène de rattrapage des entreprises liées aux obligations qu'ont maintenant les gestionnaires de flotte à migrer leur flotte de véhicules vers de l'électrique. Donc il y a un engouement assez fort pour les véhicules électriques et les bornes de recharge.
Très bien. Malgré tout, vous êtes dépendant aussi des constructeurs auto qui doivent accélérer sur l'électrique. Vous êtes satisfait de la vitesse à laquelle l'industrie automobile, notamment française, accélère sur l'électrique, Aurélien ?
Je crois qu'en tout cas, la feuille de route de l'Union européenne, c'est 2035, fin des véhicules thermiques.
Oui.
Et j'observe...
9, je crois.
9.
9, hein. Absolument. Oui, fin de la vente. D'autorisation de vendre des véhicules thermiques.
On pourra vendre ou acheter des véhicules thermiques d'occasion.
Absolument.
Voilà. Mais plus, après 2035, plus mais plus 9.
Et j'observe que la plupart des constructeurs automobiles et les grands constructeurs auto français, que ce soit Stellantis ou Renault, sont un peu plus ambitieux que ça, puisque leur objectif c'est plutôt 2030. Donc avec 80 à 100% de leurs immatriculations en 2030 qui seront en électrique. Donc je pense qu'ils sont lancés à fond dans cette course. On a du retard, très clairement, par rapport aux pays asiatiques.
Mm-hmm.
On voit ce qu'on appelle les bébés Tesla, avec des NIO, XPeng, VinFast, etc., qui montent très très fort.
Qui montent très très... Ouais.
Et parce que, en fait, eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur ce sujet des batteries, qu'ils ont une filière qui est extrêmement développée.
Et puis, il y a le gouvernement chinois aussi qui subventionne très fortement aussi tout ça, l'électrique.
Et qui pousse. Ouais. Et on sait que l'industrie chinoise, elle est très très forte.
Cela dit, c'était une nécessité, vu la pollution qu'il y a là-bas, ils n'ont pas le choix.
Absolument, absolument. Et en Europe, on est en train de mettre en place les deux jambes, c'est-à-dire à la fois la partie construction et assemblage des automobiles et également la production de batteries qui est indispensable. Et de ce point de vue-là, il y a quand même, dans les 3-4 années qui viennent, un nombre de ce qu'on appelle gigafactory qui vont sortir et un nombre très très important de chaînes d'assemblage.
Ouais.
Et dans cette histoire, et je termine juste là-dessus, ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on est rentrés tous les deux au Next 40.
Oui.
Et je pense qu'il y a aussi la volonté, donc c'est la French Tech qui organise ça, de comprendre que la transition vers une industrie verte, elle passe notamment par un sous-jacent logiciel fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'industrie 2.0 verte, sans une bonne maîtrise du logiciel, que ce soit sur les systèmes d'information, les chaînes d'assemblage, la robotique, etc.
Nicolas ? Sur ce sujet ?
Sur les constructeurs, oui, il y a une réelle avancée. On avait du retard, on est en train de le rattraper. On travaille énormément, nous, avec les constructeurs automobiles. On a des partenariats avec une vingtaine de marques. Et on sent effectivement une volonté d'accompagner leurs clients et d'aller au-delà de la vente du véhicule. L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur l'ensemble
D'accord.
de la...
Et l'idée, c'est que, par exemple, moi, je vais acheter un véhicule électrique et que le concessionnaire me dise, attendez, il y a Z-Plug, là, il peut venir dans votre parking, vous installez votre borne, c'est ça l'idée ?
Oui, l'idée, c'est qu'il ne soit pas laissé seul avec son véhicule et pas de solution de recharge. Et donc, s'il habite en copropriété, l'idée, c'est de l'accompagner avec la solution The Plug pour qu'il puisse recharger son véhicule dès qu'il le reçoit.
Eh bien, merci à tous les deux. Voilà, deux belles pépites françaises qui font leur entrée dans ce fameux Next 40. Aurélien Demeaux, Electra et Nicolas Banchet, directeur général de Ziplug. Merci beaucoup, messieurs. Ce Tech & Co est terminé. Bientôt 22h. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. On sera là demain, mercredi, 20h, 22h à la radio, à la télé, les replays, les podcasts aussi qui vous attendent. À demain.